On va commencer un petit peu les festivités.
C'est le mignon. C'est dissipé ce matin.
Alors c'est Didier Moreau qui ouvre hein, cette deuxième journée consacrée aux journées d'automne de la créativité des territoires. Et alors vous êtes ici au titre de délégué de la Fondation Edgar Morin des Savoirs. Voilà, ce qui est nouveau comme position ici sur cette table.
Voilà. Merci Élise. Donc effectivement, hier matin, j'ai ouvert les deux jours en tant que directeur de l'espace Pendes France, ce qui est mon lot quotidien sur cette belle structure. Bon, il se trouve que depuis un an et demi, je mène une aventure aux côtés de Edgar Morin pour la création d'une fondation qui s'appellera la Fondation des Savoirs. On l'a appelée la Fondation Edgar Morin. Il ne veut pas que ça soit son mausolée, donc on ne donnera pas son nom. Bref, et je voulais vous en dire deux ou trois mots, puisque il y a eu une rencontre hier avec le conseiller du président de la République pour la communication, David Kessler, et Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale. Vous en dire un mot sur les deux volets qui intéressent vos travaux, vos réflexions concernant la façon dont la Fondation Edgar Morin a envisagé son travail. Donc, simplement, la Fondation Edgar Morin, elle a pour but d'accompagner des projets à vocation éducative. Edgar Morin a depuis une quarantaine d'années, autour du thème de la complexité, développé toute une pensée qu'on appellera sociétale, avec une vision planétaire. Je vous renvoie à certains de ses ouvrages Terre-Patrie ou pour en finir avec le XXe siècle, mais également autour de l'éducation, a réfléchi depuis une vingtaine d'années dans le cadre de son ouvrage cette somme qui est illisible de faire 5000 pages qui s'appelle La méthode. Mais si vous achetez la synthèse qui ne fait que 2000 pages, vous avez la substantifique moelle de sa contribution. Il en est sorti trois ouvrages que je vous recommande parce que par rapport à la question de la créativité et de l'esprit d'entreprise, ce que je disais hier matin en parlant de l'alliance entre le cerveau gauche et le cerveau droit, il le réexplicite en appelant de ses voeux la renaissance ou la résurgence de l'alliance entre l'enseignement des humanités et l'enseignement socio-technique. Donc la Fondation, elle a pour but de mettre en œuvre un certain nombre de projets, mais également de s'appuyer sur ses réseaux pour appuyer des projets innovants sur le terrain en termes d'éducation. Et quand on pense éducation, on pense à l'académie ou à l'académique, mais on pense aussi à l'éducation populaire. Je crois que c'est les Québécois qui parlent d'éducation formelle et informelle et qui parlent même parfois d'éducation de plein air ou en extérieur, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc l'idée de la Fondation, c'est de pouvoir faire un certain nombre de relevés, de témoignages. Et c'est pour ça que, à travers ce visuel, vous voyez en haut à droite de l'écran ce qu'on a appelé un espace contributif. Donc, il va être question, avec l'aide d'un certain nombre de fonds privés, de mécénat, donc des fonds qui n'interviennent pas sur le contenu des projets ni sur la méthode, de fonds privés et de mécénat, on parle pour le moment de 14 millions d'euros, de promouvoir des projets qui permettent, par rapport à cette notion de créativité, d'esprit de découverte, d'esprit entrepreneurial, ces projets de pouvoir avoir des fonds ou des appuis qui font effet de levier. Donc la Fondation, elle s'articulera autour de quelques mots-clés, vous les avez ici, hein, donc ce qu'on a appelé les réservoirs d'idées. Il y a plusieurs thèmes qui vont être mis en avant. Un pôle de formation. Nous allons passer une convention déjà en France, mais bientôt au Québec, avec ce qu'on appelle maintenant les SP, qu'on appelait les UFM et les écoles normales pour les plus anciennes générations. Formation des formateurs. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on met en œuvre dans cette formation une réforme de la formation des formateurs en termes de pluridisciplinarité, d'esprit de transversalité, mais également de revenir à quelques fondamentaux en termes d'éducation, qui est de remettre le primat à l'apprenant, l'individu, le jeune ou le moins jeune, et surtout de pouvoir entrer dans une autre façon d'aborder l'appropriation des connaissances en sortant de la discipline et en allant vers la question de la transversalité ou au moins déjà une sensibilité à tout ça. Donc il y a une offre de formation qui est en train d'être mise en place. Le CNFPT que vous connaissez a été abordé, la formation des formateurs à travers les ESPE, mais également un certain nombre de structures un peu plus proches du monde privé. La dimension culturelle, dont on ne parle jamais assez, mais que vous évoquez souvent, est primordiale sur cette idée de la fondation et des manifestations au grand public. Enfin, pour terminer les choses par rapport à la fondation, vous dire aussi que la question de l'éducation, elle est trop souvent prise de manière sous l'angle de ses concepts, sous l'angle de sa partie abstraite. Le dernier item concernant la formation, c'est de créer des écoles d'application et en particulier d'être proche du public de l'apprentissage. Parce que vous voyez qu'on parle d'éducation et qu'on parle d'apprentissage, ça renvoie à un certain type d'éducation, au moins en France et dans les pays latins, où le manuel est laissé sur une voie qui est différente de l'éducation générale, plus abstraite, plus intellectuelle, etc. Donc l'idée, c'est aussi de créer des écoles d'application où complexité, transversalité seraient mises en œuvre. Donc on a lancé notre première année de formation à l'Université des métiers à Évry. C'est 6000 apprentis. Et nous avons lancé un programme pédagogique pour former les 600 formateurs de cette Université des métiers. Dernier point, les publics auxquels s'adresse la fondation, c'est le public des chercheurs et des formateurs, le public des développeurs sur un certain nombre de thématiques territoriales, et enfin une approche grand public qui nous permettra de toucher tout à la fois ce qu'on appelle le large public que nous trouvons dans des maisons comme l'Espace Mendès France. Je vous rappelle qu'on touche à peu près 110 000 personnes par an, un large public, mais également le public du monde des territoires et des entreprises. Alors si je voulais vous faire cette petite présentation de cette structure qui a maintenant un petit peu plus d'un an, qui a été présenté à l'Académie des sciences, c'est simplement pour vous dire que la question de l'éducation, tout comme la question de la culture, sont souvent abordées, bien souvent, comme étant un supplément d'âme dans les discussions, et que chacun se retrouve sur ses périmètres, ses habitudes et ses réseaux. Donc si nous, au sein de la Fondation, on lance ce type d'approche, c'est aussi pour décloisonner, sortir des approches disciplinaires, mais également permettre à des porteurs de projets d'inclure dans leur problématique cette question de l'éducation ouverte, encore une fois, mais également cette question de l'axe culturel de ces développements, de ces réflexions et de ces développements. Donc cette Fondation sera opérationnel au deuxième trimestre 2014. Son quartier général international sera à Paris. Il y aura 6 sites décentralisés sur 3 continents. Et pour ce qui concerne l'ouest de l'Europe, c'est l'Espace Mendès France de Poitiers, en partenariat avec des grands établissements publics nationaux, qui sera en charge d'expérimenter des programmes. Donc, à travers la plateforme que vous constituez de manière formelle ou informelle, à travers le travail de Jackie, on sera amené certainement à vous solliciter pour faire remonter des témoignages de terrain, mais également pour vous proposer des expérimentations entre éducation sur les territoires et approche où le numérique ou le digital auront aussi leur importance. Donc sachez que c'est une préoccupation qui sera au cœur de nos travaux dans les années à venir. Donc merci Jackie d'avoir permis cette petite présentation en premier point de cette journée. Élise, je te repasse la parole.
Merci beaucoup. Merci. Alors c'est effectivement dans l'esprit un peu des choses qui sont discutées ici depuis hier. Alors nous engageons la quatrième table ronde de ces journées d'automne. Une quatrième table ronde qui va être consacrée à l'intelligence culturelle. Donc en ouverture, Pierre Guédier, qui est enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Ouest à Angers et est responsable d'un master de management culturel, va nous faire une présentation de justement ce qu'est cette notion d'intelligence culturelle pour voir un petit peu ce qu'il entend par cela. Et vous, j'ai compris que vous avez créé un blog.
Un peu mort, oui, en ce moment.
En tout cas, je suis allée jeter un petit coup d'œil. Il y a quand même des choses intéressantes à regarder, donc merci. Je vous invite à aller le visiter.
Ça va m'encourager.
Et voilà, ce qui avait pour objectif justement de faire émerger cette notion d'intelligence culturelle. Alors, j'ai vu aussi que vous préparez une thèse actuellement, c'est ça, sur l'agence Hadopi. Voilà, donc ça fait... Oui.
Ne me lancez pas sur ce sujet-là, parce que ça fait durer longtemps.
C'est pas au cœur de votre présentation ici, non. Mais voilà, c'est intéressant de voir ce qui fait partie aussi de votre univers de recherche actuellement. Voilà, donc je laisse
une précision. Oui, c'est le centre de sociologie d'innovation de l'École des Mines. Comme peu de gens le savent, l'École des Mines a un certain nombre de centres de sciences humaines. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas sans lien, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, ou très peu, ou par allusion.
Voilà, donc je vous laisse la parole pour votre présentation.
Très bien, merci beaucoup de l'invitation. Alors, c'est un exercice à 9h30 du matin un petit peu délicat, parce que l'intelligence culturelle, comme vous allez le constater, est un concept absolument pas stabilisé. Ce n'est pas du tout une prophétie ni quoi que ce soit. C'est une réflexion finalement que je mène un peu en dilettante. Ce n'est pas mon cœur absolument d'attention en ce moment. Simplement pour vous souligner que bien que ce soit non stabilisé, et je pense que c'est intéressant, et je crois que c'est le lieu aussi un peu de brainstorming général, simplement pour vous signaler qu'il y a eu une journée d'études organisée à l'UNESCO à ce sujet, je crois en 2011 qu'on avait fait ça, le temps passe vite. Oui, c'est en février 2011 qui avait été, d'ailleurs, dont les vidéos sont disponibles en ligne, je pourrais vous envoyer ça si ça vous intéresse. Par différents biais, il se trouve que Bercy a lancé l'année dernière, ça s'est terminé en janvier dernier, un rapport, une tentative de rapport, parce que le rapport est très mauvais, sur la notion d'influence. Et parmi ces notions ô combien évanescentes d'influence, il y avait un groupe de travail spécifiquement sur l'intelligence culturelle. Donc c'était d'une certaine manière, c'est peut-être une idée qui n'est pas complètement absurde et qui peut-être être intéressante. Mais encore une fois, ce matin, je vais à la fois être un peu macroscopique, donc je m'en excuse, j'essaierai quand même de prendre des exemples, et en même temps assez peu stabilisé sur le plan de l'objet. Voilà. Mais je compte sur votre participation pour poser des questions. Alors, quatre points, ça commence bien. D'abord, un point sur la globalisation culturelle. Alors, en 5 minutes, ça va être un peu sportif. Essayez de voir un petit peu quelles sont les définitions qu'on peut donner à ce terme-là. Un petit point sur le capitalisme cognitif, c'est-à-dire une sorte de troisième ou quatrième génération de capitalisme et ses conséquences culturelles très importantes. Après, les questions d'intelligence culturelle comme outil d'analyse des phénomènes et aussi comme levier pour essayer de maîtriser les mutations. Alors, je vais faire dans le très, très large, donc c'est à la fois peut-être une série de portes ouvertes enfoncées. Donc, redistribution de la puissance à l'échelle globale, multipolarité, fluidité et imprévisibilité des événements, c'est un petit peu les trois grandes tendances de l'environnement mondial actuel. Et ce que je voulais essayer de montrer notamment là-dessus, c'est comme vous évoquiez, monsieur, avant, c'est que la culture n'est pas simplement une décoration, mais devient de plus en plus un terrain d'exercice de la puissance. Ça l'est depuis l'origine, mais ce que je voulais essayer de montrer aujourd'hui, c'est la nécessité d'avoir une pensée stratégique et pas simplement théorique ou éventuellement naïve de la place de la culture. C'est que dans un certain nombre de cas, de plus en plus, la culture est envisagée comme une ressource, comme une matière première, voire même comme une arme. L'enjeu général, c'est le slogan qui a été mené au niveau international sur la Convention sur la diversité culturelle en 2005 à l'UNESCO, c'est une phrase intéressante. La culture n'est pas une marchandise comme les autres. Donc c'est une marchandise. On ne va pas nier la dimension de l'économie de la culture et du rôle que la culture a avec le marché, mais ce n'est pas comme les autres. Donc on voit bien l'enjeu, mais on a un peu de mal à savoir ce que finalement est la culture au niveau réel et au niveau des échanges mondiaux. Et pour terminer, je vais essayer de souligner un peu la question d'une tension très 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 forte et qui d'ailleurs touche aussi pour... prolonger ce qui a été dit juste avant moi sur la question de l'éducation. En ce moment, c'est très fort sur l'enseignement supérieur. C'est la tension entre les biens culturels comme propriété, ce qu'ils sont, c'est-à-dire avec une titularité de droit de propriété intellectuelle et autres, et en même temps, une autre définition tout aussi légitime et tout aussi importante des biens culturels comme biens communs, avec l'utilité sociale, leur utilité sociale comme approche. Alors, juste très brièvement, à éviter peut-être deux écueils pour penser les questions de globalisation culturelle, c'est de se demander si la globalisation uniformise ou fragmente les cultures. La réponse est extrêmement pas claire. Elle est double, elle est duale, elle est totalement paradoxale et tendue, c'est-à-dire que la globalisation uniformise et à la fois fragmente les cultures. Je ne donne pas d'exemple, mais je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Il y a deux écueils, un dualisme un peu simpliste sur les questions du rôle de la culture dans la globalisation. C'est d'un côté de penser que la culture s'uniformise, c'est-à-dire qu'il y a une hégémonie, donc virgule américaine entre parenthèses, ce qui n'est pas tout à fait exact ni tout à fait faux. Et en même temps, il y a une hybridité, c'est-à-dire que les cultures se mélangent, les échanges s'intensifient. Et pour ça, je pense que ces deux écueils, un dualisme, un simplisme, de penser que la question de la culture, de la globalisation, est soit l'un, soit l'autre. Parce que derrière ces deux théories, de l'hégémonie d'un côté et de l'hybridité de l'autre, il y a deux postures qui sont un peu idéologiques. C'est, d'un côté, il y a le culturalisme, c'est-à-dire de dire vous êtes chinois, vous êtes américain, vous êtes nigérian ou norvégien, donc vous êtes définissable par des traits culturels. C'est ça le culturalisme. Avec beaucoup d'écueils et qui imprime sa marque très fortement dans la réflexion qu'on peut avoir, nous occidentaux, sur les questions culturelles et mondiales. Et l'autre côté, c'est le relativisme, c'est-à-dire de dire finalement, chacun fait sa culture, il n'y a pas la culture, ça n'existe pas, c'est les cultures, c'est l'hybridité générale, chacun fabrique sa culture. Vous voyez aussi les risques théoriques de cette idée-là. Donc premier écueil, éviter le dualisme. Le deuxième écueil, c'est, je pense que si vous êtes plutôt intéressé sur la notion territoriale, c'est justement les problèmes de représentation du lien entre culture et territoire. Nous sommes donc très marqués par la rationalité et par notamment la représentation euclidienne des territoires, avec de la topographie, avec de la coordonnée. Et on pense avec une sorte d'évidence qu'il faut aller du local au global, du global au local, et qu'il y a un emboîtement d'échelle. Et je pense que les élus ou les agents territoriaux ici sont en permanence à articuler les départements, les agglos, les régions, l'État, l'Europe, etc. Alors, bien sûr, ça c'est vrai, mais ce n'est pas les seules modalités d'organisation mentale de la globalisation culturelle. À l'inverse, la notion de flux, d'association souple, d'agilité est de plus en plus frappante. Donc la deuxième question, c'est est-ce que la globalisation multiplie ou diminue les frontières ? Vous savez qu'il y a une grande théorie de dire oui, c'est le village global, il n'y a plus de frontières. Or, vous le savez, même en géopolitique, il n'y a jamais eu autant de frontières, ne serait-ce qu'en Europe, par exemple. Il n'y a jamais eu autant de frontières militarisées. Et il n'y a jamais eu autant de frontières numérisées et surveillées. Là aussi, je ne donne pas d'exemple. Voilà, donc deux questions un peu générales que je vous lance comme ça et auxquelles je ne réponds pas dans le détail, mais deux écueils. Alors, quelles sont ces nouvelles frontières sur lesquelles la question de l'intelligence culturelle peut peut-être essayer de contribuer à réfléchir ? C'est quatre grande catégorie que j'emprunte notamment à Saskia Sassen sur les questions de globalisation, c'est en fait les 80 mégalopoles mondiales qui sont plus liées entre elles que n'importe quel autre territoire au monde, par des réseaux numériques, par des réseaux financiers, par des réseaux économiques. Les migrants, la sphère informationnelle et ce qu'on, en France, on a un petit peu de mal à aborder, même d'un point de vue intellectuel, c'est la question des courants religieux, qui, au passage, la sphère religieuse n'a jamais été aussi dynamique, multiforme, puissante, y compris sur le plan politique, dans les relations internationales. Et ça, il faut pas l'oublier. Et les religions, je voyais ça inscrit sur la feuille tout à l'heure, là, à la pause café, les religions ont un rôle, enfin, ont une place importante à jouer et sont souvent pas forcément très bien pensées. Une définition, s'il faut en donner une, de l'impact de la globalisation sur les relations culturelles, c'est ce qu'un anthropologue américain, Arjun Appadurai, appelle les communautés imaginées. C'est pas tout à fait nouveau de dire que chaque communauté a fait appel à l'imaginaire pour se structurer et pour avoir un contact avec le réel, la mythologie, la littérature, etc. Mais la grande différence qui advient depuis quelques décennies, c'est ce qu'Appadurai appelle la déterritorialisation. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait une sorte de cohérence entre le territoire dans lequel évolue un individu, qui est d'ailleurs relativement limité, et les valeurs culturelles, les images, les idées qui étaient liées à ce territoire. Il y a une sorte de cohérence, une sorte d'articulation. L'ancrage local, le cadrage local a été massivement bouleversé. Ce qu'Appadurai définit comme une sorte de nouveauté, enfin en tout cas un accroissement très important, c'est ces communautés imaginées qui vont se détacher d'un support territorial pour fonctionner justement sur un imaginaire commun. Ça va des fans de sport, en passant par les diasporas de migrants, en passant par les fans de séries américaines, etc. Donc on a des communautés qui sont déterritorialisées et on a des idées qui passent d'un territoire à un autre, mais en se transformant. C'est ça qui est important. C'est que le McDonald's, je fais un exemple qui paraît caricatural, il n'y a pas deux McDonald's au monde qui ont la même carte de menu en fonction des pays. C'est-à-dire que McDonald's a une approche très opérationnelle de cette mondialisation. C'est que les premières années, quand McDonald's arrive dans un nouveau pays, il garde le modèle américain, standard, Big Mac, etc. Au bout de 2 ans, il fait une adaptation alimentaire aux menus locaux. Et donc, je prends cet exemple très caricatural, il y a d'ailleurs une seule chose qui reste commune à tous les McDo, c'est les French fries. Donc on peut quand même pousser un léger cocorico à ce sujet, à ce niveau-là. Donc tout ça pour vous dire que ces idées, en se déterritorialisant, évoluent et changent. C'est-à-dire que la réception d'une idée, la réception d'une série américaine, la réception de ce que vous voulez, quand il atterrit dans un territoire, va être modifié. Donc ces communautés imaginées génèrent, c'est ça qui est important à mon avis, pour sortir la culture d'une sorte de piédestal et d'espèce de nuage, c'est que ça génère des nouveaux types politiques et des expressions collectives, surtout politiques. Et donc, ça génère aussi des tentatives de discipline et de surveillance et de cadrage de ces nouveaux types d'expressions politiques. Je ne donne pas d'exemple, mais vous voyez sans doute à quoi je veux faire allusion, que ce soit les communautés de hackers, que ce soit les différentes communautés de ce genre. Donc voilà un premier point, je m'excuse un peu du côté très générique de ce que je viens de dire. Le deuxième point que je voulais aborder là aussi un peu rapidement, c'est le capitalisme cognitif. Depuis les années 50, ça, c'est très ancien, hein, ces théorisations-là remontent aux années 50, au début de la guerre froide, où la Rand Corporation et le KGB sont d'accord sur un certain nombre de points théoriques, notamment la question de l'importance du cognitif sur disons, le matériel. Et qu'en fait, en quoi consiste le capitalisme cognitif ? C'est en fait fabriquer des expériences. Et donc, Topfler, là, un prospectiviste américain un peu fou d'ailleurs, mais qui raconte la chose suivante, c'est-à-dire qu'en fait, le secteur fondamental de l'économie va être la fabrication de l'expérience. Et avec un peu de cynisme et un peu d'humour, en disant c'est quand même, on est quand même la première société de l'histoire à utiliser la plus haute technologie pour fabriquer ce qui est le plus volatile des produits, c'est-à-dire l'expérience humaine. Si vous prenez Apple, Apple est intégralement centré sur cette idée-là. C'est-à-dire qu'on fabrique une expérience de consommation, on n'invente rien, on n'invente pas le téléphone, on n'invente pas le PC, on n'invente pas le lecteur MP3, mais on crée une expérience pure autour d'un objet technologique. C'est la caricature de cette idée-là. Donc on va vers une évolution très importante de fond qui est l'évolution de la propriété des biens culturels vers l'accès aux biens culturels. Les marchés deviennent des réseaux, les biens des services, les vendeurs des prestataires, les acheteurs des utilisateurs, le prix unitaire se transforme en abonnement, le droit de propriété intellectuelle en droit à la culture. Donc la propriété des œuvres ou des objets culturels qui étaient inscrits sur des supports disparaît au profit d'une économie de l'accès. Alors si ça vous intéresse, il y a un certain Jeremy Rifkin qui est le pape de l'économie de l'accès, l'âge de l'accès, la nouvelle culture du capitalisme, qui est un ouvrage assez intéressant là-dessus. Donc il décline à l'envi toute cette idée de glissement des notions de propriété matérielle à la notion d'accessibilité. Ça, c'est la clé pour comprendre l'évolution et l'importance à la fois du numérique, mais surtout une forme d'idéalisation possible de cette idée d'accès. Derrière cette idée d'accès, il y a une idée très forte sur le plan libertaire, c'est la notion de disponibilité des biens. Et de dire, voilà, vous connaissez le célèbre fournisseur d'accès qui s'appelle Free en France. Le terme free en anglais, qui signifie gratuité et liberté, c'est là que se situe le nœud théorique. C'est-à-dire que l'objectif est de faire considérer que l'accès aux biens devient gratuit, ce qui est naturellement totalement faux, puisqu'il faut des ordinateurs, il faut des abonnements, il faut, voilà, faut des prérequis culturels et compagnie. Donc, glissement du capitalisme matériel vers le capitalisme cognitif. Alors, l'intelligence culturelle là-dedans, on voit bien que dans cette dynamique-là, la matière première, l'or noir, le pétrole, ce qui va faire fonctionner cette économie du capitalisme cognitif, ce sont les contenus culturels et leur capacité à générer une action politique. C'est là-dessus que je voudrais insister, c'est le rôle majeur que commence à jouer ou s'intensifie la place des contenus culturels, des biens culturels dans les relations internationales. Alors, cette évolution, il y a trois facteurs qui sont rapides à mentionner. C'est d'abord un facteur géopolitique. On sort de la guerre froide où la culture a été instrumentalisée par les deux blocs. Si ça vous intéresse de voir comment les Américains ont utilisé les livres, les cinémas, la musique dans la guerre froide, c'est là que se sont vraiment, je le rappelle, se sont forgés cette idée-là. C'est-à-dire qu'on gagne une guerre qui n'est pas une guerre militaire. La guerre froide n'était pas un gel des relations militaires. On la gagne par la conquête du cœur et des esprits. C'est à ce moment-là que vraiment s'implémente cette idée que la culture peut être un outil de puissance très important. C'est assez peu connu cette histoire-là, la façon dont le département d'État s'est occupé de la culture pendant la guerre froide. Mais on est donc sorti de cette guerre froide et cette opposition, cette instrumentalisation bloc à bloc de la question culturelle. Donc il y a un facteur géopolitique de multipolarité qui fait que les puissances émergentes ont assez bien compris. Tout à l'heure, je crois que quelqu'un viendra parler peut-être de la Chine. Si j'ai le temps, ce qui m'étonnerait, je pourrais parler de l'exemple chinois. Les Chinois ont intégralement compris l'intérêt de cette posture et l'ont implémenté de manière magistrale pendant les années 2000. Dès que les JO sont attribués en 2000, pour 2008, il y a 8 ans dans lesquels la Chine rattrape intégralement son, euh, son, pas son retard, mais en tout cas, implémente de manière méthodique cette idée que la culture, que l'image qu'un pays projette à l'extérieur est aussi important, et si ce n'est plus, que la puissance militaire, puisque comme vous le savez, la Chine, malgré l'armée populaire chinoise, est un pays, est une puissance militaire relativement faible, notamment sur le plan maritime, ce qui explique un certain nombre de situations actuelles. Facteurs géopolitiques, facteurs socio-économiques, on a pendant les 30 Glorieuses une élévation globale, je dis bien globale, du niveau d'instruction de l'humanité, du taux d'alphabétisation et une évolution globale du niveau de vie. Ce qui permet à des gens de plus en plus nombreux, d'une classe moyenne, d'avoir des moyens d'investir dans les biens de consommation et notamment les médias et notamment les biens culturels. Je pense aux téléphones portables, je pense aux jeux vidéo, je pense à ces équipements-là qui sont permis par aussi un accroissement moyen du niveau de vie dans le monde. Et enfin, bien sûr, le facteur technologique, puisque le sommet, ce que n'avait pas prévu ou n'avait pas théoriquement en main les théoriciens de la cybernétique dans les années 50, c'est bien sûr l'outil technologique. Et donc cet outil technologique arrive avec Internet. Et donc, à partir de 1995, ça commence, Internet, la numérisation de la surface de la Terre et de l'intégralité de la connaissance est lancée de manière planifiée, c'est pas juste un hasard. Et donc, le facteur technologique, à partir des années 2000, devient déterminant pour la culture comme enjeu et moteur des relations internationales. Alors, ça, c'est le panorama. Il y a deux doctrines relativement opposées qui émergent sur le plan géopolitique à propos de ces questions-là. La première, c'est la doctrine du soft power, à l'immédiate sortie de la guerre froide en 90, et plus tardivement, à partir des années 2000, la doctrine de la diversité culturelle. Le soft power, c'est ça. C'est Clinton qui joue du saxo devant Yeltsin. C'est Clinton qui implémente de manière opérationnelle l'idée que on est sorti de la guerre froide. Maintenant, il faut que les États-Unis, qui sont la superpuissance pendant une dizaine d'années, jusqu'au 11 septembre, les États-Unis arrivent à verrouiller l'intégralité et étendre et rendre parfaite leur hégémonie, qui est déjà parfaite sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Mais il manque un élément pour parfaire cet édifice. Joseph Nye, en 90, sort un livre qui s'appelle Bound to Lead, The Changing Nature of American Power, où il théorise le soft power, en disant que pour exercer sur la scène internationale un pouvoir d'attraction, il faut des moyens non coercitifs. C'est-à-dire qu'il y a les moyens coercitifs. Et la culture, les valeurs politiques et la diplomatie sont la complémentarité des moyens coercitifs. Alors ça paraît assez sympa sur le papier, hein, c'est Clinton qui joue du saxo, la culture, voilà. Hein. En fait, c'est une approche très ultra instrumentale, hein, c'est le courant du réalisme politique nord-américain, où dans les relations internationales sont vues exclusivement sur le mode de l'affrontement. Et donc le soft power, je cite Nye, hein, c'est assez brutal, hein, se mesure la capacité d'une puissance à en attirer d'autres dans son orbite et par conséquent augmenter la probabilité d'obtenir des concessions qui l'arrangent au mieux. Grâce à la persuasion et à l'attractivité, le soft power vise à créer un environnement favorable aux intérêts de celui qui l'exerce, il le met en position de force. Ce qui est bien dans le discours pragmatique américain, c'est qu'au moins les choses sont dites. Hein. C'est pas, on ne pourra pas les accuser d'avoir dissimulé tel truc. Non, ce n'est pas de théorie du complot du tout. Voilà, il faut conquérir le cœur et les esprits. C'est l'étape ultime. Alors nous, ça peut nous paraître bizarre en tant qu'Européens, hein, mais c'est quelque chose qui est positif dans l'idéologie nord-américaine. Hein. Donc ça, c'est le soft power, très rapidement, bien sûr. L'alternative, on va dire, doctrinale, c'est au niveau des doctrines. Hein, après, il y a les stratégies, après, il y a les tactiques. me reste 5 minutes, donc je vais pas détailler. L'autre option, c'est la diversité culturelle. Alors, la France, notamment, a toujours eu une position depuis les 94, le GATT, depuis les accords sur le libre-échange, enfin même avant, puisque dès le GATT, hein, ça date des années 50 aussi, c'est-à-dire que ça, l'OMC, tout ça, ça remonte à loin. Hein. La dérégulation du commerce international est très ancien. Les Français, liés à l'histoire du rapport entre l'État et la culture, ont toujours défendu l'idée que les États avaient non seulement le droit, mais le devoir de mener une politique culturelle. Donc, de mettre des dispositifs fiscaux, légaux, douaniers, favorables à la culture française, notamment le cinéma, par rapport à une libéralisation du marché des biens culturels. Donc les Français ont toujours essayé de sortir des négociations commerciales les biens culturels, en disant non, c'est une marchandise pas comme les autres, donc on ne peut pas la traiter comme une paire de baskets, comme une bagnole. Les Américains disent, le département d'État américain de l'époque, de commerce, dit non, nous, pour nous, il n'y a aucune différence entre une basket et un film. Aucune. Donc on met ça sous la négociation commerciale. Donc il y avait la posture qui a été suffisamment raillée de l'exception culturelle. Derrière l'exception culturelle, c'est ça. C'est-à-dire il faut autoriser la puissance publique à ériger des mécanismes de protection, de financement public. Parce que, et ça s'appuie sur, c'est pas simplement de l'idéologie et de la fierté franco-française, c'est le marché, les règles libérales appliquées aux biens culturels, mécaniquement, produisent de la concentration. Il n'y a pas de... c'est mécanique. Et donc, cette concentration pose un problème sur les questions de diversité culturelle. Donc, en 2002, sommet de Johannesburg sur le développement durable, donc ça n'a rien à voir, Chirac fait un coup dont il a le secret, il annonce un quatrième pilier du développement durable, la diversité culturelle. Sur le plan politique, c'est un grand coup, puisqu'il dit, voilà, y a la biodiversité, il y a je ne sais plus quoi, et on rajoute, je propose, rajouter un quatrième pilier, la diversité culturelle. Et là, à ce moment-là, les Américains commencent à dire... On voit les Français où vous voulez en venir, c'est vous voulez sortir la question culturelle de l'OMC et vous voulez aller la renégocier dans d'autres enceintes internationales, dont l'UNESCO. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2001, il y a une déclaration universelle sur la diversité culturelle, formalisée en 2005 sur une convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et cette convention, je passe assez vite, veut essayer donc d'équilibrer l'idée que la culture est simplement une sous-catégorie des dispositifs commerciaux. Bon, je passe un petit peu sur les quatre points principaux parce que on n'a pas le temps. Pour conclure sur cette idée-là, en fait, l'intelligence culturelle, qu'est-ce qu'elle essaye ou qu'elle essaye de définir, c'est aussi des enjeux un peu à affronter. C'est le problème du marché des idées, le problème de la fabrication de la norme culturelle et de la maîtrise de la numérisation de la culture. C'est les trois enjeux. La force normative et idéologique de la pensée, très puissante, hein, c'est pas une critique ni une... des intellectuels américains, c'est d'arriver à créer des concepts qui vont, avec un terme un peu barbare, performer la réalité. C'est-à-dire que le choc des civilisations, la fin de l'histoire, l'Internet libre, c'est des mots, c'est des concepts totalement insaisissables, mais qui permettent d'imposer sur l'agenda international, dans les rencontres multilatérales, qui permettent d'aller dans une direction, qui est une direction pour les intérêts américains, les intérêts du pays qui les aimait, ce qui est un peu logique. Donc là, le problème, c'est que la France a réussi à faire ça, et pour vous montrer l'illustration du pouvoir des mots sur le plan international, c'est avant, la France était sur la défensive, l'exception culturelle. Donc alors, évidemment, c'était un festival pour les diplomates, bam, on a dit oui, les Français, oui. exception française, merci, très bien. Au moment où la France, le Canada, les pays francophones, les coalitions, la société civile se disent non, il y a un problème théorique, c'est qu'on ne peut pas défendre à reculons une idée. Il faut être sur une option positive. Donc c'est la diversité culturelle. Rien que cette sémantique, c'est la même chose derrière, c'est exactement pareil, cette sémantique a complètement retourné la communauté internationale. À l'UNESCO, quand ils ont adopté cette convention, deux pays contre, États-Unis, Israël. Donc 191 voix pour. Donc simplement en retournant sur le plan des idées. Le problème aussi, on va dire, le problème c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir des idées, hein. On n'a pas de pétrole, on a des idées, mais il faut les implémenter. Et ça, les latins, on est mauvais. Hein. On peut se gargariser de grandes idées, mais on n'arrive pas à les implémenter, ce qu'arrivent à faire très bien les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'immédiatement, derrière, il y a de l'implémentation, il y a des traités, il y a des accords, etc. Donc il faut fabriquer de la norme. Et ça, c'est très difficile de faire passer une idée politique dans de la norme, et surtout que cette norme s'applique. Donc ça, je ne donne pas de détails, mais il y en a beaucoup. La normalisation, par exemple, dans le domaine de l'enseignement à distance, à l'ISO, hein, l'Institut international de normalisation, des pays sont capables de faire passer des normes sur l'enseignement à distance, par exemple. Vous imaginez ce que ça représente de normaliser l'enseignement à distance au niveau mondial. Ça se fait, bien sûr, alors ça ne fait pas la une des journaux. Hein. C'est des comités techniques, c'est pas des grands ministres, c'est des gars très opérationnels qui sont placés non pas aux échelons supérieurs, mais qui sont placés à la place qu'il faut pour pousser les normes. Et enfin, un dernier point, c'est la maîtrise de la numérisation de la culture. La numérisation, c'est très bien, c'est parfait, c'est génial. Il faut juste pas oublier que derrière, il y a du matériel à vendre. Faut jamais oublier ça. Et que bien savoir où sont les intérêts réciproques. Quand on parle de culture libre, quand on parle de partage généralisé, il faut se demander simplement une seconde qui a intérêt, d'une manière industrielle, à faire en sorte que tous les contenus soient libres de droit. Enfin, en tout cas, que le droit d'auteur puisse être le plus érodé possible. Je vous laisse répondre à la question, je pense que c'est assez facile. Voilà, je vais conclure. Voilà, bah je conclue en fait. J'ai pour ne pas déborder trop. Voilà, je suis dans les temps. J'ai juste trois images à vous donner. Celle-ci, alors elle est difficile, hein. Je vous la décris parce que c'est pas simple. Ambassadeur américain, il y a plein de petits. En costard, l'ambassadeur américain, Samuel Lee Johnson, donc un des plus gros acteurs américains, le Secret Service qui attend dans le coin, et pour regarder le mur, hein, c'est des titres français, c'est une école de design de banlieue, je crois que c'est Villiers-le-Bel. Donc l'ambassade des États-Unis aujourd'hui en France a une action déterminante auprès des leaders de banlieue. Deuxième image, cathédrale russe à Paris, projet, c'est en cours de réalisation. Là aussi, je vous laisse juste penser au rôle de l'orthodoxie dans la restauration de la puissance russe. Front de Seine, quai Branly. Hein. Et le Louvre à Abu Dhabi, les musées français qui se projettent à l'international sur des zones historiquement pas forcément historiques d'influence française, sachant qu'à côté du Louvre d'Abu Dhabi, il y a Paris 4, et il y a une base militaire très importante à 150 km des côtes iraniennes, qui est la première base outre-mer française construite depuis, je crois, au moins, pratiquement la Seconde Guerre mondiale, avec un quai d'accueil du porte-avions Charles de Gaulle. Voilà. Pour finir.
Merci. Pour moi, c'est un plaisir d'avoir une conclusion sur l'architecture, finalement. Bon. Alors, je préfère vous laisser tout de suite la parole, peut-être, s'il y a des questions, des demandes de précision, des commentaires. Moi, j'en ai bien un ou deux, mais je préfère avoir les vôtres d'abord. Alors, je peux peut-être lancer un petit peu mes réflexions suite à votre présentation. Alors, ce qui me semble assez marquant, c'est que finalement, on peut s'interroger de quelle culture on parle quand on vous entend, parce que si on prend l'exemple de la France avec son exception de la culture, c'est assez intéressant de voir qu'au final, par exemple, sur ce qui concerne les langues, la France est toujours à la traîne sur la reconnaissance de la diversité des langues. Donc finalement, en termes...
Sur le territoire national.
Oui. Oui, oui. Et y a comme ça aussi, à l'intérieur de l'État français, il y a eu une histoire de l'uniformisation. Et cette uniformisation, effectivement, elle avait un rôle. Enfin, voilà, la culture a joué un rôle dans l'uniformisation du territoire. Et donc, du coup, il y a une bataille d'uniformisation contre une autre, quelque part. Enfin, on est quand même dans certaines cultures. Voilà. Ça, c'est une des premières réflexions que je me suis faite en vous entendant. Parce que effectivement, quand on s'interroge, on se positionne du point de vue des communautés, les choses prennent forme un peu différemment. Donc ça m'intéresserait bien de voir comment vous pouvez articuler les deux. Et terminer. Alors moi, je suis architecte et c'est vrai que je ne peux pas être insensible à ce type d'image sur justement comment l'architecture peut médiatiser la culture, en tout cas en donner une représentation. Et il y a quelque chose, il y a des débats aujourd'hui sur justement l'architecture internationale et cette question des symboles dans l'architecture pour justement faire... permettre d'identifier quels sont les traits culturels qui sont véhiculés à travers l'architecture, mais au final, on se demande si on n'est pas dans des objets...
des soucoupes volantes.
des objets... on est dans le symbole pur, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la construction d'un imaginaire lié à la culture. Voilà, il y a une sorte de réduction, encore une fois, à travers une idée simplifiée, finalement, de la culture.
Le cas d'Abu Dhabi est très intéressant puisque donc il y a juste pour rebondir là-dessus, donc il y a le Louvre sur l'art classique, il y a Guggenheim sur l'art contemporain, il y a un énorme complexe de performing arts, une espèce de truc à l'opéra. Vous pouvez jouer les symphonies de Berlioz sans aucun problème. Il y a la Sorbonne et il y a une marina. Donc l'idée d'Abu Dhabi, comme le Qatar, c'est de dire, bon, on pense au coup d'après, il faut qu'on ait une destination touristique, une offre touristique qui permette à un touriste de faire le tour du monde chez nous, avec le meilleur du Louvre, le meilleur de Guggenheim, etc. Donc en fait, il y a les Émiratis ont une idée assez pragmatique, c'est qu'on va concentrer au même endroit toutes les richesses de ressources culturelles de la planète, et on va payer, puisque pour le Louvre, c'est quand même c'est quand même 1 milliard d'euros à la clé, donc voilà. Sur les communautés, oui. Alors, quand je parlais des deux grandes théories anglo-saxonnes d'un côté et, on va dire, d'inspiration française de l'autre avec la diversité culturelle, c'est bien parce que c'est le choc de deux idéaux d'universalisme. Hein. Mm. C'est sûr que vous avez parlé donc des communautés de linguistiques sur le territoire national. On ne parle même pas de l'ex du passé colonial français. Hein, parce que... Si on a un des plus gros réseaux culturels au monde aujourd'hui, c'est parce que c'est l'héritage tout simplement de cette vision de l'universalisme à la française. Et les Américains, dans les années 20, quand ils mettent en place leur réseau culturel, c'est la France le modèle. C'est clair. Les Chinois, quand ils font les instituts Confucius, c'est les alliances françaises le modèle. Donc il y a, et c'est pas l'histoire de France qui contredit l'idée qu'un État, qu'une politique linguistique, une politique culturelle pour un État est un outil politique très puissant par rapport aux langues, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer. Mais on est dans un cas politique. La France est vraiment un cas politique très particulier de ce point de vue-là. Je ne sais pas s'il y a... Enfin, les Turcs ont essayé de faire la même chose. Mais c'est sûr que le laboratoire, enfin, ce dont j'ai parlé là, c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs siècles. Hein. C'est pas un truc qui a été inventé aux années 90. Hein. Et c'est d'ailleurs le problème. J'ai pas beaucoup parlé de la France volontairement. Le problème qu'a la France aujourd'hui sur ces questions-là, c'est qu'elle vit sur cette histoire et sur cette mentalité de grande nation, hein, le fameux XVIIIe siècle. Ça reste dans les habitudes, dans les habitus de l'État, les habitus des grands corps, les habitus de la conception même de la culture, une matrice très très forte. Donc quand le Quai d'Orsay a vu arriver Charles Rifkin, qui au passage est un des pontes de l'entertainment américain, c'est un Californien, il a 44 ans, il avait 44 ans à l'époque, c'est un gars, c'est le patron du Muppet Show par exemple. C'est le patron notamment de la division télé de Disney. Donc il est dans cette dynamique du divertissement. Là aussi, qu'est-ce qu'on entend par culture ? La France va entendre la Versailles, hein, c'est-à-dire l'académisme, la culture savante, la haute culture. Et à l'inverse, les anglo-saxons, justement, vont réussir à jouer de la complémentarité entre culture populaire, culture savante et... de manière magistrale. Et nous, on est la France a cette tradition-là, hein, qui est très 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 forte. Hein. Oui. Ça marche ? On vous entend, oui.
Afrique. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Chine
d'Afrique. C'est un qui vient de sortir il y a 2 mois sur l'évolution de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique, avec une vision un peu différente. En particulier, les entreprises visent aujourd'hui les pauvres, qui est un marché énorme par rapport aux classes moyennes dont vous parlez tout à l'heure, où il y en a moins là-bas, si ce n'est en Inde, un peu plus, un petit peu en Chine aujourd'hui. Et en visant les classes, enfin disons pauvres, à $2 par jour, les Indiens ont mis en place un Internet qui consiste à avoir son mobile et la télévision. Ça passe par la télévision en Afrique. Et sachez qu'il y a plus d'Africains aujourd'hui en Chine qu'il y en a en Europe. Donc ça commence à évoluer autrement. Et les pouvoirs de demain seront peut-être, et justement, enfin, dernier exemple, le ministre chinois disant le yuan... peut remplacer le dollar, mais enfin, ils n'y sont pas du tout avant 30 ans, parce que derrière la monnaie, il y a un problème économique, enfin, il y a, etc.
Ouais, puis Chine, ça sera le problème des retraites. Hein, c'est-à-dire, les Chinois savent qu'en 2022, il y a un problème des retraites.
Et là, enfin, disons qu'il y a d'autres modèles de fonctionnement qui se mettent en œuvre et qui ont un poids, puisque c'est pratiquement les 2/3 de la population française, de la population mondiale en 2030. Quoi. Voilà, je recommande ce livre.
Il y a 5 milliards de lignes téléphoniques dans le monde ouvertes, donc en gros, et dont la majorité sont dans les pays chinois d'Afrique. Et donc, eux ont sauté la révolution filaire, où nous, on a installé des câbles partout. Voilà, eux, ça passe directement par l'Internet mobile. Ouais.
Pour faire la transition, vous vouliez évoquer un peu la Chine, donc on va passer ensuite à l'Institut Confucius. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ?
Oui, très brièvement sur la Chine, j'évoquais tout à l'heure simplement, c'est cette idée de soft power est en fait, en Chine, sonne très très bien. C'est-à-dire que le pouvoir doux dans le confucianisme, c'est quelque chose qui résonne beaucoup. Et donc la Chine a... Quand je parlais des mots qui vont d'une culture à l'autre et qui sont aussi modifiés, les Chinois ont très très bien compris l'intérêt, et d'ailleurs ils le disent officiellement, hein, au moment où la Chine était au sommet de sa puissance au 7e siècle, la Chine n'a envahi aucun pays, n'a soumis militairement aucun pays. Et c'est vrai, la Chine n'a pas de tradition d'expansion territoriale militarisée. Et donc les Chinois disent, nous, le soft power, on le pratique depuis... Enfin, voilà, c'est une valeur chinoise. Mais il faut l'implémenter. Il ne s'agit pas de le dire, simplement. Et donc, les Jeux Olympiques et, ce qu'on oublie toujours, l'exposition universelle de Shanghai, ont été vraiment les 2 moments clés, en plus de tout un tas d'autres, hein, mais ont été vraiment le sommet de cette réponse... À ce concept américain du soft power. Et on peut se demander, oui, si... alors Nye, récemment, au mois de mai, a fait un papier, notamment sur les Russes et les Chinois, en disant, oh, ils parlent du soft power, mais ils n'ont rien compris. Il est possible que l'élève ait dépassé le maître, hein, dans un certain nombre de cas. Donc c'est vrai que la Chine, avec les instituts Confucius, il y a un institut Confucius qui s'ouvre tous les 15 jours. Voilà, donc en prenant là aussi le vecteur de la culture profonde, on va dire, de la Chine, qui est parce que instaurer Confucius comme figure chinoise dans un pays gouverné par un parti communiste, c'est vrai que c'est assez subtil. Et les instituts Confucius sont une avec la rapidité, l'extensivité que la Chine peut se permettre d'un point de vue de sa puissance économique. Parce que les alliances françaises, il y en a, je crois, un millier, ça s'est construit sur 150 ans. Et donc je ne sais plus quel est le nombre aujourd'hui actuel des instituts Confucius, mais le premier était ouvert peut-être en 2004 ou 2005. Avec un trait de génie sur l'Institut Confucius, c'est de s'implanter dans les universités. Parce que ça permet immédiatement d'être au cœur de la formation, etc. Ce que n'ont pas fait historiquement les alliances françaises, qui, elles, sont des associations.
Merci. Alors, merci beaucoup pour cette transition. Donc, nous allons accueillir maintenant Monsieur Wang Gangling. Et il est accompagné, je crois. Alors, je n'ai pas votre nom, du coup, vous vous présenterez. Alors, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu parmi nous aujourd'hui. Asseyez-vous, je vous en prie. Présenter l'Institut Confucius de l'Université de Poitiers, qui a été créé, je crois, en 2005, c'est ça ? Et donc, vous avez l'intention de nous présenter quelque chose sur la plateforme informatique sur Internet pour sauver les enfants volés. C'est ça,
oui, non, oui,
j'ai bien compris. Voilà, donc, un mot juste pour dire ce que c'est qu'un institut Confucius. Alors, si j'ai bien compris, il a pour vocation de faire connaître la langue et la culture chinoise et faciliter les échanges culturels. Et l'Institut Confucius de Poitiers est en partenariat, par exemple, avec d'autres universités qui sont en Chine. Voilà. Alors, est-ce que vous avez... Donc avant de commencer, je vous demanderai bien de vous présenter en deux mots chacun. Oui. Merci.
Bonjour, mesdames, messieurs. D'abord, je me permets de me présenter. Je m'appelle Huang Guangling. Et bien sûr, c'est un peu difficile à prononcer ou un peu difficile à entendre pour vous. Mais de toute façon, pour faciliter, vous pouvez m'appeler mon prénom français, c'est-à-dire Philippe. Philippe Young, peut-être que c'est plus facile. Et maintenant, je suis enseignant à l'Institut Confucius et j'enseigne principalement la langue chinoise à l'Université de Poitiers et aussi à l'ENSMA.
Monsieur Huang aussi un chercheur aussi, il a fait un peu de recherche, il est historien et sociologue en même temps. Moi, je m'appelle Guo Yugang, mon prénom est Yugang. Donc, en effet, je suis diplômé à l'Université de Poitiers, donc je suis déjà à Poitiers depuis assez longtemps. Je travaille à l'Institut Confucius depuis la création de l'Institut Confucius, c'est-à-dire 2005. Donc maintenant, je fais un peu de recherche aussi en économie. On a revu l'Institut Confucius, je travaille un peu sur notre revue. Merci.
Bon. D'abord, j'ai le grand honneur de me présenter à ce séminaire sur la créativité et sur le territoire. C'est très, 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 très intéressant. Et je suis aussi très, très content d'avoir entendu parler beaucoup de la Chine. Oh, et bien sûr, maintenant, aux yeux de beaucoup de gens, la Chine est un pays maintenant assez riche avec beaucoup de développement, etc. De toute façon, c'est un pays magnifique. Mais pour nous, bien sûr, la Chine est un pays magnifique, mais aussi c'est un pays en voie de développement, c'est-à-dire en Chine, on a encore beaucoup de choses d'abord à apprendre, et ensuite on doit quand même faire beaucoup d'efforts pour améliorer notre société, pour résoudre les problèmes sociaux existants aujourd'hui. Ce que je voudrais vous présenter, c'est plutôt un mouvement social, un mouvement social en Chine, au lieu d'unité économique ou managériale. Pourtant, il s'agit quand même d'une certaine innovation qui relie deux symboles de la technologie avancée de la vie quotidienne, soit l'Internet et le portable. Oh, et certainement, on peut dire l'Internet, c'est immense, et c'est abstrait et très, très public, alors que le portable, c'est une chose très, très, très concrète, bien sûr, et petite, mais aussi très, très individuelle. Oh, et ces deux choses-là, elles symbolisent respectivement les deux extrémités de la technologie contemporaine. Et la technologie se dote donc d'une double nature dans le domaine social, donc on dit social, et d'une part, bien sûr, la technologie isole les individus l'un de l'autre, devant le petit écran. Le petit écran, maintenant, c'est plutôt une cloisonnement. Et donc, elle a provoqué donc, la formation d'une société qu'on appelle et qu'on qualifie souvent un peu une société étrangère ou une société assez froide. Oh. Mais d'autre part, la technologie, elle permet aussi aux copains ou même aux anonymes de se regrouper dans un espace virtuel malgré la distance réelle, peut-être une distance de 100 km ou 10 000 km, etc. Mais on peut se voir, on peut se regrouper dans un espace virtuel assez limité, très, 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 très proche. Donc, c'est-à-dire, si on veut, la technologie dans la société sous l'angle social, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Et si on veut, on pourra aussi faire quelque chose au profit de l'intérêt social. Par exemple, en lançant un mouvement social avec plus d'intervention et plus de participation. Donc, la technologie, bien sûr, elle peut rendre la vie privée plus pratique, plus convenable. C'est déjà véritable. Mais elle peut aussi améliorer l'évolution de la société ou même celle du droit ou de la démocratie, on dit. Alors, je pense que cette situation se voit partout, déjà se voit partout dans le monde. Et ici, je voudrais présenter un cas assez spécial en Chine, c'est-à-dire le vol. le vol des enfants et un mouvement contre le vol des enfants. Et en Chine, maintenant, le vol des enfants reste un grave problème social. Et le ministère de l'ordre public de la Chine, c'est-à-dire la police nationale de la Chine, a même créé spécialement un bureau national contre le vol des enfants et des femmes. C'est-à-dire, c'est déjà un problème très, 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 très grave. Et on peut voir beaucoup de photos sur les enfants mendiants ou les enfants vagabonds. Et bien sûr, ce sont souvent des enfants volés. Mais la raison du vol des enfants est diverse. Bien sûr, par exemple, peut-être vous connaissez tous très bien la politique de l'enfant unique, par exemple, et la grande mobilité de la population rurale, c'est-à-dire l'exode rural vers les villes, et le manque de la gestion des enfants mendiants et les enfants vagabonds, etc. J'explique un petit peu, c'est-à-dire d'abord la politique de l'enfant unique. On dit ça permet la formation d'un marché des enfants, au moins une formation d'un marché potentiel ou même au moins noir des enfants, parce que si une famille peut avoir seulement un enfant, et si le premier enfant est une fille. Bien sûr, les Chinois, je pense que comme les Occidentaux anciens, ils préfèrent avoir un garçon comme l'héritier de son patrimoine. Et donc, bien sûr, s'ils ne peuvent pas avoir leur propre garçon, quelquefois, bien sûr, ils peuvent essayer de l'adopter, mais sinon, pourquoi l'adoption est aussi difficile, on peut imaginer, puisque une famille est seulement un enfant, donc il n'y a pas beaucoup d'enfants à adopter, donc on est toujours obligé d'acheter les enfants sur le marché noir. Donc ça permet la formation et la naissance des enfants volés, par exemple. Dans l'exode rural, bien sûr, avec la grande mobilité, il est très, très difficile de contrôler, il est très difficile de contrôler le vol des enfants, parce que la grande mobilité, le grand changement toujours démographique. Et par exemple, sur la photo, on voit beaucoup d'enfants vagabonds, beaucoup d'enfants médians, bien sûr. Je pense que comme en France ou comme tous les autres pays, les enfants mendiants sont interdits par la loi. Mais puisque la Chine est assez grande, donc on dit la gestion des enfants mendiants et des enfants vagabonds, c'est un peu difficile de faire. Et c'est-à-dire, quelques enfants, quelques voleurs des enfants, s'ils ne peuvent pas les vendre à une famille qui en a besoin, ils peuvent peut-être les faire vagabonder dans la rue, vous-même les faire, vous-même leur faire demander de l'argent dans la rue. Ah, donc c'est un très grand problème. On peut dire que les raisons des vols des enfants c'est divers, mais de toute façon le sort, le destin des enfants volés et celui de leur famille sont les mêmes, c'est-à-dire la grande misère. Bon, ces pauvres mineurs n'ont pas la force de se protéger contre le désastre que les criminels leur imposent. Et la police, elle n'a pas assez de ressources humaines, ni de moyens financiers d'éliminer le réseau de criminels complètement. Donc, la situation est d'autant plus difficile que le territoire chinois est presque aussi étendu que toute l'Europe. Donc, les criminels, ils trouvent facilement des abris dans la campagne immense, ou peut-être ils peuvent s'enfuir très vite avant l'arrivée de la police, surtout dans les villes et dans les zones bien, bien animées. Bon, et surtout parmi les enfants mendiants, amenés à demander de l'argent dans la rue par les voleurs. Ah, c'est juste le cas que je viens d'expliquer ça. Oui. Mais il est très très difficile de les distinguer. C'est-à-dire, il est très très difficile de distinguer les enfants volés de ceux de familles démunies. C'est-à-dire, les enfants de familles très 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 pauvres amenés dans la rue par leurs propres parents, mais pas par les voleurs. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, les adultes à côté de ces derniers, par exemple, une femme comme ça, il est très très difficile. Il est très difficile de les identifier. On ne peut pas savoir si c'est un voleur ou si c'est une pauvre. Elle est obligée par la vie très 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 pitoyable d'emmener cet enfant dans la rue. Mais c'est-à-dire, bien sûr, si c'est un voleur, bien sûr, on va les arrêter, on va les punir. Mais si c'est un vrai pauvre, à l'inverse, il fait l'objet de l'aide sociale. D'accord? Donc, mais pour la police, on n'a pas assez de ressources humaines, on n'a pas assez de ressources financières de les distinguer, de les identifier l'un par l'un. Et ça coûte souvent trop de temps, quelquefois. Bon. Et puisque maintenant, on peut dire, même si en Chine, on sait que en Chine, l'État est assez fort, mais même si en Chine, dans ce cas-là, la police ne peut pas montrer assez de puissance pour résoudre ce problème. Donc, on peut dire qu'il est de temps que les citoyens chinois, ils agissent en contribuant leur effort. Et principalement sous l'initiation d'un économiste chinois qui s'appelle Yu Jianzhong, on a créé une plateforme informatique visant à lutter contre le vol des enfants. Et à la base de Weibo. Weibo, bien sûr, vous ne connaissez pas, mais tout le monde connaît Twitter. Weibo, c'est un peu comme le Twitter en chinois, en Chine. Mais comment fonctionner? Et pour ça, d'abord, pour établir cette plateforme informatique, la première étape, des organisations, par exemple, des organisations civiles, des organisations de charité, etc. Et aussi des administrations, par exemple la police. Et elles créent leur site personnel, soit leur journal sur le Weibo, sur le Twitter chinois. Et elles font des avis sur Internet ou d'autres presse pour faire connaître ces sites et surtout l'objectif de ces sites. Donc, la deuxième étape, maintenant, les bénévoles, c'est-à-dire les citoyens qui s'y intéressent, et les enfants, les parents des enfants perdus, mais aussi les commissariats, bien sûr. Ils s'inscrivent dans le Weibo et choisissent de suivre en permanence, ou on peut dire de s'abonner à un site de sauvetage. Ainsi, ils peuvent accéder à cette plateforme sur Internet, soit devant l'ordinateur et soit avec un portable. Bon. Ici, je voudrais vous montrer deux exemples de ces plateformes. Et là, d'abord, c'est une plateforme d'une organisation civile. C'est comme Twitter. On peut voir là, c'est son site. C'est son site personnel. Et ensuite, ici, c'est le nombre de ses abonnés. Vous pouvez voir plus de 153 000. Et c'est seulement une organisation et un site. Et ensuite, là, c'est un autre site. C'est un autre site créé par les administrations. En réalité, par le directeur du Bureau national contre le vol des enfants et des femmes, que je vous ai déjà expliqué. Et là, vous pouvez voir ça. C'est le nombre des abonnés et c'est même trois fois plus nombreux que le premier. Et il existe aussi beaucoup de sites, on peut dire des sites gouvernementaux ou non gouvernementaux comme ça. Et tous ces sites, quelquefois, tous ces sites, ils s'abandonnent l'un de l'autre, et c'est-à-dire tous ces sites conforment, tous ces sites forment en réalité une incrédité, c'est-à-dire un ensemble de plateformes. Bon, et ensuite, comment fonctionner? Bon, et bien sûr, quand, par exemple, quand les bénévoles, ils croisent dans la rue des enfants mendiants ou des enfants vagabonds, qu'ils considèrent comme des enfants volés, c'est-à-dire peut-être ils n'en sont pas très sûrs, mais au moins ils peuvent essayer de prendre des photos et les mettre sur leur propre journal de Weibo, et avec surtout avec des descriptions qui soutiennent leurs soupçons. C'est-à-dire, par exemple, il faut dire un enfant amené par un adulte, mais peut-être, mais il semble que cet enfant n'aime pas du tout. N'aime pas du tout l'adulte à côté de lui. Donc, je pense que c'est peut-être un enfant volé. D'accord. En même temps, ils vont bien sûr retirer la plateforme et en mettant simplement, comme vous savez, en mettant simplement le nom d'un ou des sites des organisations, seulement après un arrobase. Donc, ensuite, les personnels de l'organisation, ils vont traiter les informations qu'ils ont collectionnées et les remettre sur la plateforme. Les remettre sur la plateforme, c'est-à-dire les remettre, les faire publier sur leur propre journal. Et de sorte que les parents et les policiers abonnés, bien sûr, les parents et les policiers abonnés, ils puissent agir dès la vue de ces informations, c'est-à-dire immédiatement. Et bien sûr, pourquoi on dit que c'est plutôt des créativités? Parce que le vol des enfants en Chine, c'est un problème social grave mais depuis des dizaines d'années. C'est un problème historique. Mais on dit, on lutte toujours contre ce crime, aussi depuis longtemps, depuis la naissance de ce crime-là. Mais maintenant, on dit l'Internet, c'est une nouvelle chose. Et surtout, le Weibo, comme le Twitter, c'est même plus nouveau. Et la fonction d'appareil photo dans un portable, c'est aussi une chose assez nouvelle. C'est-à-dire, on emploie les nouvelles choses pour résoudre des problèmes très anciens, très, très historiques. C'est pourquoi on considère ce mouvement aussi comme des créativités. Bien sûr, les avantages de cette plateforme sont assez évidents. Là, vous pouvez voir. Bon, et tous les citoyens peuvent participer à ces moyens-là. Et par exemple, avec leur portable en fonction d'appareil photo, une simple touche vers un pauvre enfant, comme ça ou comme ça, et permettrait de le sauver du gouffre misérable en transmettant éventuellement en 10 minutes l'image pitoyable dans tout le pays. Bon, et à ce point-ci, les deux extrémités de la technologie avancée se relient, on va dire. Et les parents peuvent avoir plus d'occasions de trouver les informations de leurs enfants volés, même sans sortir de chez eux. La police, elle collectionne les traces, les témoignages et éprouve des criminels plus facilement, plus vite, à l'aide de toute la société maintenant. Bon. Et ce qui est le plus important, c'est que les policiers peuvent avoir plus d'occasions d'arrêter les criminels à temps et c'est-à-dire d'éviter le plus vite possible le crime. Oh. Et si on préfère un point de vue politique, plus à long terme, bien sûr, on voit une interaction très, très positive, très, très active entre le gouvernement et la population sur des affaires sociales. Et quelquefois, c'est, jusqu'à maintenant, ce n'est pas très, très souvent en Chine. Parce que mais on est toujours optimiste sur le développement de notre pays. C'est-à-dire, de toute façon, on va dire que la participation dans des affaires sociales, c'est certainement politique. Et donc, de plus en plus de gens s'interviennent dans la politique de cette façon-là, à travers cette plateforme. Et c'est-à-dire, on a dit que la démocratie, on ne peut pas réaliser la démocratie dans une nuit. La démocratie demande des pratiques, demande des exercices avant sa formation. Donc, on peut voir que cette plateforme constitue aussi une espèce d'exercice et de pratique dans la démocratie. Bien sûr, c'est bien pour le futur de la Chine. Et bien sûr, donc on dit que, en conclusion, on dit que ce qui favorisera l'évolution de la démocratie en Chine, même s'il semble assez indirect, ou au moins quand même assez long. Bon, bien sûr, quelqu'un dit peut-être il existe aussi des problèmes, dans cette plateforme. Par exemple, est-ce qu'on va abuser sur le plan politique? Est-ce qu'on va abuser le droit individuel? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut servir directement de police ou de juge devant une affaire sociale comme ça? Et ça, c'est le contraire de la démocratie, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi des contestations comme ça. Mais c'est pourquoi maintenant, sur la plateforme, on demande surtout des descriptions de votre doute, des descriptions pour soutenir votre doute, pour soutenir votre soupçon. Sinon, peut-être la plateforme ne redoutez pas ces informations. C'est-à-dire, de toute façon, on fait aussi des essais sur la pratique, sur l'exercice de la démocratie, et de l'évolution politique avec cette plateforme. Bon. De toute façon, malgré des contestations, tout le monde doit avouer que la créativité technologique de cette plateforme informatique et surtout son impulsion positive au moins dans le sauvetage des enfants volés. Et bien sûr, on a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer ce mécanisme. Par exemple, si on essaie toujours de sauver les enfants volés, ce n'est pas suffisant. Peut-être il faut aussi faire plus de propagande sur la prévention du voile des enfants, etc. Ouais. Bon, et pour conclure, je voudrais dire, enfin, de toute façon, notre but final est être clair, c'est-à-dire, c'est de rendre cette plateforme inutile, c'est-à-dire avec l'anéantissement des vols des enfants. Bon, c'est tout, merci.
Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a tout de suite des questions dans la salle ? On peut. Oui, tu penses qu'on peut enchaîner ? J'avais juste une petite question pour finir. Est-ce que vous avez des éléments d'évaluation de cette politique ? Est-ce qu'il y a effectivement une réduction du vol des enfants ? C'est pas encore possible de savoir.
Le chiffre, comment dire, le chiffre très officiel maintenant, on ne peut pas bien les collectionner. C'est-à-dire, on peut pas très bien évaluer l'effet de ces sites-là, parce que comme je viens de dire, il y a plusieurs sites comme ça, des sites des organisations civiles ou des sites des administrations, etc. Donc, bien sûr, il y a un ensemble de ces sites pour cette plateforme, mais on ne peut pas donner un chiffre très précis pour ça. Mais je pense, de toute façon, je peux vous donner un chiffre officiel, mais pas très précis. Donc, je dis, c'est-à-dire, en 2000, je pense qu'en 2007 ou en 2008, on a sauvé par an, par la police, plus de 50 000 enfants volés. Et ces années-ci, on a même presque doublé ce chiffre-là. Mais je ne peux pas dire que c'est juste la fonction positive de nos sites. Pourquoi ? Parce que peut-être il existe une autre variable, c'est-à-dire peut-être le crime augmente. Donc je ne peux pas vous donner une évaluation.
On n'a pas un chiffre, par exemple, le pourcentage des enfants qui a sauvé, mais on a un chiffre que le nombre des enfants sauvés. Ça, c'est très clair, c'est pourquoi augmenter. Donc, quand même, cette plateforme, ça sert contre la vol des enfants.
Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre la discussion avec Alexandre Rigal. Alors, Alexandre Rigal va nous parler d'une plateforme de jeunes chercheurs de Lyon qui se mobilise pour développer la créativité dans les cursus de recherche. Donc, c'est le collectif Confluence. Alors, Alexandre Rigal, vous êtes actuellement doctorant en études urbaines et vous êtes à la recherche d'un CIFRE. C'est
plus maintenant, puisque j'ai eu la chance de trouver mon financement.
Bravo.
Le premier travail du chercheur à l'EPFL, donc à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ouais, je m'exile.
Et alors, vous avez une double formation, si j'ai bien compris, parce que vous avez un Master 2 de recherche en urbanisme et un autre Master 2 de recherche en anthropologie de la communication.
Voilà, oui, c'est ça.
Bravo. Et vous êtes intéressé notamment à la vie en ville la nuit.
Oui, ça c'était mes travaux de mémoire. Et là, pour le projet sur lequel je suis recruté, c'est un projet pour imaginer et bâtir à l'échelle de la Suisse de nouveaux modèles de ville et de déplacement sans voiture, en fait, ou avec le moins de voitures possible. Voilà. Mais je l'ai à peine débuté, donc je ne vais pas vous en dire plus.
Merci. Alors, le collectif Confluence, alors
C'est un peu le sujet de ma présentation, donc peut-être que je vais que je vais débuter du coup. Donc j'ai intitulé ça le collectif Confluence, donc un témoignage et une réflexion autour d'une tentative d'institution de connexion. Donc l'idée du collectif Confluence, c'était de rassembler des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales, lettres et arts, c'est-à-dire au-delà des disciplines, qui gravitent autour du doctorat, donc masterant, doctorant, post-doctorant, etc., hein, c'est assez large, dans toute la France, en étant au départ localisé à Lyon. Donc on se situe à la jonction entre le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, et des autres institutions publiques et privées, et ce qu'on essaie de constituer, c'est une communauté de jeunes chercheurs qu'on rend visible à travers une plateforme internet assez classique, mais qui permet à des jeunes chercheurs habituellement un peu relégués sur les fonds des sites de laboratoire d'avoir une page personnelle qui permet de regrouper leurs publications, par exemple, et tout simplement d'être visible, une des raisons pour lesquelles j'ai pu venir ici. En même temps, on organise des événements ouverts au grand public, donc ce qu'on appelle les cafés des jeunes chercheurs à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu à Lyon, où là, c'est des mini-conférences en fait, et un dialogue avec un grand public. Et on organise aussi des événements plus pour nous, jeunes chercheurs, des rencontres estivales aux ateliers, un peu plus de réflexion et juste de convivialité. Du coup, l'idée, c'était d'avoir une espèce de réflexivité sur notre projet et en même temps de l'exemplifier par nos actions. Et peut-être que vous sentirez un décalage entre la théorisation, même si elle est un peu maladroite, un peu abstraite, et puis le côté pragmatique, mais je vais essayer de lier les deux. Partant du principe que nous, la créativité, évidemment c'est un objectif à long terme pour toute recherche, mais que pour la rendre possible, il fallait passer en premier lieu par des rencontres et des connexions entre disciplines. Et c'est pour ça que j'ai parsemé mon intervention de petites citations, dont une de Deleuze et Guattari, qui disent que l'invention, c'est une conjugaison ou une connexion de flux divers. Donc c'est un peu le maître mot qui nous a guidés dans notre association et qui pose la question un peu contradictoire habituellement de lier institutions et réseaux. Donc, je vais vous présenter et puis vous jugerez si on se démène plus ou moins bien dans cette contradiction. Donc si on suit Deleuze et Guattari, connecter, c'est ce qui rend possible la créativité, ce qui ne veut pas dire qu'elle se produit toujours, évidemment, mais ça signifie qu'elle peut se produire. Donc du coup, j'ai réparti l'intervention en deux temps. Pour commencer, il s'agit de comprendre de quoi il faut que nous désinhibions, ce qu'il faut de quoi est-ce qu'il faut se décharger pour nous rencontrer et pour créer. Du coup, sous forme de question, ce serait qu'est-ce qui empêche la créativité et donc qu'est-ce qui a à conjurer. Et puis dans un deuxième temps, donc qu'est-ce qui nous permet de nous rencontrer et donc, espérons-le, de créer. Et c'est ce que j'ai appelé, pour le dire avec une expression, une institution de connexion. Du coup, la première partie est encore une citation pour l'annoncer, toujours Deleuze, créer, c'est résister. Donc qu'est-ce qui empêche la créativité et qu'est-ce qui a conjuré ? Donc déjà, ce qui est important de penser, en tout cas à notre échelle, c'est que la désinhibition n'est pas ponctuelle. C'est qu'à chaque fois qu'on va avoir des intervenants ou des interlocuteurs pour pouvoir organiser nos événements, notamment moi qui suis très jeune dans la recherche et très jeune tout court, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. Donc déjà, à chaque fois, il faut qu'on refasse nos preuves. On nous a souvent aussi considérés comme des optimistes un peu béats de vouloir faire de l'interdisciplinaire, même si ça se fait quand même beaucoup. Et puis tout simplement, voilà, il y a toutes ces questions de querelles politiciennes à l'université qui sont des petits empêchements. Donc qu'est-ce qui empêche les rencontres ? Donc c'est assez évident, hein, mais c'est tout d'abord le poids de nos agendas et le manque de flexibilité produit par la discipline à laquelle on est astreint, que ce soit en entreprise ou dans des institutions publiques ou de recherche, des horaires et des lieux. Donc même si les jeunes chercheurs, ils ont a priori la vocation à publier et à passer leur temps un peu en vadrouille, en colloque, en conférence, etc., finalement la pression qui est mise sur eux, mais qu'on retrouve dans la plupart des métiers, j'imagine, pour finir leur thèse en peu de temps, en 3 ans, fait qu'ils ont de moins en moins l'occasion, finalement, de partir à la rencontre des autres. Et du coup, sans ces rencontres, on peut se questionner un petit peu sur leur possibilité d'expérimenter, que ce soit au sens large de rencontre, c'est-à-dire au niveau de nouveaux auteurs, au niveau de nouvelles personnes, et aussi tout simplement de remplir leur travail de diffusion de la recherche. Donc des exemples autour de nous, hein, tout simplement. Donc on a des directeurs de thèse qui vont contrôler l'heure à laquelle vous arrivez au labo, l'heure à laquelle vous partez du labo, ce qui est complètement absurde, sachant que les idées, elles n'émergent pas entre 9h et 17h, mais ça, vous en doutez bien. Donc un des soucis aussi du métier de chercheur, et je pense que c'est de la plupart des fonctions, c'est aussi la distinction entre travail et congé. À partir du moment où on vous fixe un agenda très strict au niveau des horaires et des tâches à remplir, du coup, vous avez tendance à décharger complètement lors de vos vacances tout le travail de création, alors que c'est évident qu'il n'y a pas de moment pour créer et pour avoir des idées. Donc ça, c'est des petits points concrets, évidemment, mais que nous, on est obligé d'affronter, comme tout le monde, au jour le jour, quoi. Voilà, donc l'idée, dans ce qu'on essaie de mettre en place, évidemment, c'est de penser les horaires non pas comme des contraintes disciplinaires, mais comme le minimum pour la synchronisation, ce qui n'est pas du tout la même façon de l'envisager. Et pareil pour le lieu, l'unité de lieu, c'est quelque chose qui a un intérêt au départ pour vous familiariser avec vos collègues et des gens qui travaillent sur la même thématique. Mais finalement, si vous vous cantonnez à votre laboratoire, vous allez vite être limité en termes d'interaction, d'où l'intérêt d'éclater les lieux de rencontre et de vadrouiller un petit peu. Donc ce qui empêche l'ouverture, la source d'enfermement intellectuel des doctorants, elle provient en premier lieu des disciplines qui leur sont plus ou moins imposées par le système universitaire, et ce qui leur permettra plus tard d'être qualifiés en tant que maître de conférence, ce qui est fait de manière disciplinaire et qui évalue pas simplement la qualité de votre travail, mais aussi son inscription dans une discipline assez stricte. D'ailleurs, j'ai toujours été étonné que le terme de discipline soit valorisé par les chercheurs à ce point, alors que ça a quand même un côté assez péjoratif. Voilà, donc des exemples simples, c'est qu'à l'université, certains directeurs, pas tous heureusement, vont limiter sciemment votre recherche et le potentiel que vous pouvez développer en limitant vos lectures, vos rencontres, sous prétexte que ça ne s'inscrit pas dans la droite ligne de votre discipline. Donc ça a un côté assez intrigant d'auto-castration. Donc du coup, nous, on est obligés dans notre association de lutter un petit peu contre ces tendances à la rationalisation et à la disciplinarisation de nos agendas et de nos modes de pensée. Du coup, on est obligés, mais ça c'est un travail normal quand on essaie de rencontrer des gens, de faire une espèce de travail de diplomate. Et de traduction entre les disciplines, ce qui n'est pas évident parce qu'on n'a pas de formation à l'origine pluridisciplinaire. Et évidemment, ça devient encore plus difficile quand il faut s'adresser à un public de non-spécialistes. Par exemple, cet été, on a organisé donc des rencontres estivales à la Villa Gilet, donc un haut lieu culturel à Lyon, qui constitue une espèce de parc et qui nous permettait d'être un petit peu isolés pendant quelques jours pour pouvoir mieux nous rencontrer, d'être isolés pendant quelques jours du brouhaha urbain. Et là, on s'est posé des questions hors d'atelier. Donc, on avait à la fois des présentations durant trois demi-journées des travaux de chacun, histoire d'avoir un panorama et de comprendre un peu qui est qui. Et on avait aussi des ateliers plus de réflexion assez ouverts et sans prétention scientifique, notamment un sur ce qui serait comment créer du commun, ce qui est un peu le principe de notre association. Et là, on s'est rendu compte tout simplement que le fait de ne pas construire la question ensemble et tout simplement pas avoir défini et débattu de la question même, rendait délicat tout partage réel de la réflexion. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent en laboratoire ou lors des colloques, c'est qu'il y a un thème imposé, chacun arrive avec son petit point de vue, et finalement, il y a une juxtaposition des interventions et une difficulté à connecter, d'où l'idée de connexion. Mais bon, ça, c'est un travail permanent qu'il nous faut faire chez nous et sans doute ailleurs. Donc quelques pistes assez concrètes pour lutter contre ce qui pourrait miner la créativité. Donc lutter contre l'unité de lieu durable, les horaires fixes routiniers, les disciplines d'activité unique et les institutions trop hiérarchiques. Donc ça, c'est un petit peu plus le schéma de l'association. On s'est un petit peu constitué contre deux modèles, donc un modèle pyramidal bien connu et répandu. Donc celui de la pyramide, donc celui où une espèce de chefferie, pour être un peu polémique, confisque les tâches les plus ouvertes et confisque les pouvoirs d'organisation de la structure. C'est ce qu'on essaye de ne pas faire, évidemment, même si c'est toujours délicat. Donc évidemment, quand vous tombez dans la pyramide, c'est bien plus difficile de rencontrer et de connecter les intérêts divers. Mais il y a une seconde figure qu'on a essayé de contrer et qui est peut-être un peu plus délicate et un peu plus abstraite, c'est celle du cercle, c'est-à-dire celle de la mise sur un pied commun, un pied d'égalité de chacun, et de faire comme si on avait tous le minimum pour discuter ensemble. C'est un petit peu l'écueil de l'atelier sur créer du commun, malgré tout, dans lequel on est tombé. C'est-à-dire de faire comme si tout le monde était le même et de partir de l'idée de, voilà, d'une espèce de capacité commune et standard à tous à discuter des mêmes choses en même temps. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, comme je le disais, à mettre en péril, parce qu'a priori, l'égalité, c'est quand même une valeur noble. Et nous, on se rend compte, et je pense que c'est encore plus le cas dans les institutions, notamment plurinationales ou qui mélangent les cultures, de la nécessité de prendre en compte les différences de chacun et aussi de ne pas vouloir se rassembler tous d'un coup, mais à l'inverse, de multiplier les petits temps et les petits lieux de rencontre qui permettent là des connexions plus efficaces selon nous, et ensuite de rendre compte devant l'association ou devant un panel plus large des travaux de chacun pour donner lieu à nouveau à d'autres petites connexions, mais toujours éviter cette espèce de grand barnum qui peut, semble-t-il, pour nous un petit peu figer les connexions possibles. Donc du coup, on en arrive, d'où d'ailleurs les citations de Leusienne, à une figure un peu contradictoire et instable, donc une espèce d'institution, c'est-à-dire quelque chose qui tente quand même de consolider une espèce de rhizome, de réseau assez fluctuant et horizontal. Donc c'est pas évident, parce qu'en fait, ça nous donnerait une espèce d'institution, ce qui est toujours à rejouer et à remettre en jeu, une institution un petit peu donc qui serait rythmique et qui aurait jamais la même forme, en fait, qui changerait tout le temps de forme, et dans l'idéal, qui n'aurait pas de porte-parole désignée sur du long terme, même si, évidemment, là, je suis le porte-parole de l'association devant vous. Mais l'idéal, ce serait que ça tourne, en fait. Voilà. Donc ça crée une espèce d'instabilité, et puis juste, tout simplement, il faut qu'il y ait assez de volontaires aussi. C'est la monopolisation de la parole et du pouvoir, elle se fait aussi, tout simplement, dans les associations, j'entends, par le manque de volontaires. Donc c'est pas évident de stimuler les désirs de parole. Donc du coup, la seconde partie, c'est qu'est-ce que ça peut être une institution de connexion, hein. Donc c'est encore une citation, cette fois toujours de Deleuze et Guattari. Donc non pas en arriver au point où l'on ne dit plus « je », mais au point où ça n'a plus aucune importance de dire ou ne pas dire « je ». Nous ne sommes plus nous-mêmes, nous avons été aidés, aspirés, multipliés. Donc c'est encore pour vous donner une espèce d'ouverture. Donc une institution de connexion, comme je vous le disais, donc pour nous, c'est ce qui rend possible donc des rencontres. Pour produire des rencontres, il y a des choses très concrètes à réaliser, évidemment. Il faut rassembler des personnes entre elles. Et c'est là où, chez nous, en tout cas, on se rend compte de la nécessité des gens et des fonctions de communicants, par exemple, des gens qui ont des compétences dans l'événementiel, des professions qui sont souvent, notamment chez les intellectuels, assez décriées, mais qui sont en fait essentielles d'un point de vue politique au sens large et au sens noble pour rassembler les gens et pour ces rassemblements, donc ce qu'on pourrait appeler des synchronisateurs de flux, pour le dire un peu de manière un peu prétentieuse. Et aussi, évidemment, mais ça on l'a bien vu aussi dans la présentation précédente, de la nécessité de coupler donc tous ces outils d'information et de communication, notamment Internet, avec des outils géographiques, tout simplement de repérage. Et que la géographie qu'on utilise au quotidien, elle devient de plus en plus un moyen de nous rassembler. Et pareil pour ces outils d'information et de communication, comme ça a été bien dit. On a longtemps cru que ça allait nous isoler. Et en fait, disons que statistiquement, les acteurs qui utilisent le plus ces nouvelles technologies ou ces technologies maintenant sont ceux qui aussi rencontrent le plus en face à face d'autres personnes. Et du coup, on a essayé nous de miser là-dessus, mais comme ça se fait par ailleurs, évidemment aussi. Donc du coup, un type de synchronisation de flux, c'est tout simplement les cafés qu'on organise à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu et qu'on va bientôt organiser à partir de janvier à la BNF à Paris, qui sont des moments où là, on fait intervenir trois jeunes chercheurs ou non jeunes chercheurs, on n'est pas fermé, qui appartiennent ou non à notre association, sur une thématique commune, donc ça peut être le développement durable, je sais pas, dans les grandes villes d'Asie du Nord-Est, par exemple, on a eu sur la Mongolie. Et là, vous avez trois jeunes chercheurs qui interviennent, qui ne viennent pas de la même discipline et qui traitent de la question une petite heure et dans l'idéal, qui ont un lien de camaraderie ou de convivialité. Enfin, voilà, pour que ça passe, il faut aussi qu'il y ait un peu de passion. Et puis après, vous avez le public qui peut interroger, etc. Donc on a eu le même format qui est assez classique, mais qui est important pour les jeunes chercheurs, pour les exercer et aussi pour pour justifier le fait que la recherche est publique et qu'elle est aussi là pour le public. On a eu un peu le même genre de manifestation il y a quelques semaines à l'hôtel de ville de Lyon, dans ce qu'on a appelé notre forum. Donc voilà, et comme je vous le disais, on a aussi un réseau numérique. Donc c'est un réseau numérique, ça sert pour la visibilité, évidemment, mais ça nous sert aussi à discuter, puisqu'on a une plateforme un peu plus privée où là on essaye de communiquer à la fois sur des questions de carrière, d'annonces de postes, etc. et aussi des relectures de papier, parce que la désinhibition elle n'est pas simplement par rapport à l'institution, elle est aussi par rapport à nous-mêmes, parce que là il y a beaucoup de jeunes chercheurs, tout simplement on craint toujours les premières interventions, les premières publications, on n'ose pas et on se crée facilement des mythes en recherche de grands pontes. Et ce qui est assez amusant, parce qu'en fait ils ne sont pas connus par les autres, mais par nous-mêmes et par simplement quelques personnes. Mais il y a des grandes figures tutélaires comme ça qu'il faut arriver à approcher et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc une institution de connexion, comme je disais, ça rend possible donc, l'ouverture pluridisciplinaire, transdisciplinaire, bon, espérons transdisciplinaire, et donc par des activités de diplomatie et de traduction. Et pour ça, donc c'est l'intérêt peut-être qu'on a eu au collectif d'avoir des gens formés voilà, un petit peu comme moi, mais notamment dans les Sciences Po, que ce soit en province ou à Paris, ce qui nous donne une espèce de capacité à parler, à discuter un petit peu sans retenue, qu'on essaye de modérer par la rigueur scientifique qu'on acquiert petit à petit, et ce qui nous a donné l'intérêt à ouvrir les disciplines. Mais c'est toujours quelque chose de très difficile. Et une des nécessités aussi, c'est que pour pouvoir s'ouvrir, évidemment, c'est de lutter contre la raison cynique et toutes les logiques concurrentielles qui sont éminemment présentes en recherche, mais comme ailleurs. Et c'est aussi l'un des intérêts du collectif. À partir du moment où on essaie de se rassembler dans une espèce de réseau institutionnalisé, c'est qu'on essaie de devenir partenaire et de partager nos relations, nos réseaux et tout simplement nos réflexions. Et essayer de faire de l'autre un partenaire et pas simplement donc un concurrent. Et ça, c'est des logiques qui sont pas évidentes à mettre en place et qui sont de longue haleine, parce qu'on lutte contre des gens plus forts que nous, comme les institutions universitaires. Mais voilà, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, pour la créativité et pour la connexion. Donc voilà, comme je vous le disais, pour ça, il faut créer des liens aussi d'amitié, et c'est ce qu'on essaie de faire tout simplement lors de nos rencontres estivales, où c'est aussi des temps, pas que de réflexion, c'est aussi des temps, voilà, des repas, c'est des choses simples, mais voilà, de repas ou juste d'amitié. On essaie de créer des liens d'amitié. Donc cette histoire de diplomatie, on peut le résumer par une citation de Latour dans son dernier ouvrage. Lui, il l'utilise à une échelle beaucoup plus ambitieuse, évidemment, une échelle de cosmopolitique mondiale. Mais bon, on prendra la citation pour nous aussi. Donc il faut des diplomates, c'est-à-dire des gens capables de découvrir enfin ce à quoi tiennent vraiment leurs mandants au prix de quelques sacrifices qu'ils apprennent à détecter à l'occasion de pourparlers souvent interminables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est d'être capable pour se connecter, non pas d'essayer d'arriver dans une espèce d'universel ou de standard, ce qui est un peu toujours le risque de la pensée universaliste, mais au contraire de tenir compte des différences de chacun et de les prendre comme des richesses, bien sûr, mais surtout de les prendre en compte et de trouver la zone de contact. Et c'est pour ça que nous, on essaye de mettre en place des lieux où il y a peu de gens, où les rencontres sont de taille relativement modeste. C'est pas simplement parce qu'on n'est pas capable de faire plus. Au-delà de ça, c'est vraiment parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen pour réussir à trouver ces zones de contact qui demandent donc du temps et du travail. Voilà, donc multiplier les connexions, ça passe par donc pour nous par la multiplication des relations numériques, des communications, des rencontres, encouragées par la multiplication des thèmes abordés, des déplacements, des lieux de rassemblement, etc. Donc tout ça, l'idée dans tout ça implicite, et que j'ai essayé de montrer peut-être trop vite en critiquant les figures de la pyramide ou du cercle, c'est de lutter contre toutes les institutions qui tentent de monopoliser. Et aujourd'hui, ça reste comme les institutions les organisations les plus importantes, que ce soit les États qui sont des acteurs de la monopolisation, si on reprend les définitions classiques ou non classiques, ou les entreprises, pour la plupart d'entre elles, qui sont des organisations de monopolisation là, de marché ou tout simplement de ressources financières. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de lutter contre ce caractère fondamental des institutions en accélérant le processus et en essayant de faire tourner le plus possible, comme je vous le disais, donc les porte-paroles, les thèmes, les lieux et les temps de rencontre. Voilà, et donc pour conclure, finalement, notre objectif que je vous présente aujourd'hui, ce serait de créer des institutions qu'on pourrait dire rhizomatiques, donc des réseaux denses et divers, pour mobiliser donc sur des projets, des espèces de diplomates, même si ça reste, c'est une ingénierie sociale qui est difficile à maîtriser, et ces diplomates qui devraient aussi savoir se mettre en retrait, ce qui est aussi une des difficultés en recherche. Une fois leur stimulation et leur connexion réussies, finalement, essayer de créer des institutions qui catalysent, donc qui accélèrent les processus et qui permettent de stimuler les gens et pas simplement de les ramener à eux. Et bon, évidemment, c'est pas facile. Il faut lutter contre nos propres aspirations au pouvoir et à la monopolisation de la parole et de la représentation. Voilà, si je peux vous présenter un petit peu notre association, voilà, de manière un peu théorique.
Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, est-ce qu'il y a des réactions, des questions dans la salle ?
Et je propose à ce moment-là, en même temps, oui, que Stéphanie vienne et installe son... Voilà. Et c'est d'ailleurs une intervention qui sera assez complémentaire, ou tout du moins, on pourra comparer.
Oui, vous décriviez là, si je peux rappeler, ce qu'on appelle une stratégie périphérique. Vous avez toujours une tour centrale, vous avez toujours quelque part une discipline, une hiérarchie, enfin, et puis... Si vous voulez innover, il faut sortir de cette tour centrale, il faut sortir de cette, comment dirais-je, lieu où les gens produisent, mais ils produisent et reproduisent la même chose. Et c'est fait pour ça qu'il y a des institutions, c'est pour que les gens aient des règles et les suivent plus ou moins. Et l'innovation est toujours périphérique, c'est-à-dire les gens sortent, mais on sort d'un lieu pour aller se rencontrer et innover ailleurs. Alors un exemple, c'est IBM, tour centrale, qui définit des caps, etc., et qui a son marché. Des chercheurs sortent d'IBM et créent le CreOne, qui est l'ordinateur le plus puissant du monde, mais en dehors de l'institution. Mais depuis cette institution, cette entreprise qui vend des ordinateurs les plus puissants, est devenue une institution. Forcément, parce qu'il y a le marché, il faut produire, etc. Donc voilà, on peut... Il faut toujours jouer, non pas simplement... Enfin, c'est le gros problème de nos sociétés. Il y a une institution, une discipline, et le contre ou le à côté ou le ailleurs va venir aussi alimenter la discipline. Alors un exemple, c'est que Thierry Godin, à l'époque, vous aviez dans les lycées, il n'y avait pas d'atelier pour les enfants dans les lycées, il n'y avait rien, et donc il a fait rencontrer 500 professeurs techniques qui avaient initié des ateliers clandestinement dans les lycées pour fabriquer des micro-ordinateurs, des petites voitures, des trucs, et les gosses étaient passionnés, quoi. Et alors, il les a réunis, il a sorti l'annuaire de ses profs, et depuis, il y a des ateliers techniques dans les collèges. Il serait allé voir le directeur de l'académie, enfin, il a vu le directeur du ministère pour l'enseignement technique en lui proposant cette idée. Bien sûr qu'elle n'est pas descendue, mais en prenant les expériences périphériques, il a pu montrer que c'était possible, puisqu'il y avait des gens qui le faisaient, et aujourd'hui, vous avez des ateliers dans tous les collèges, parce que, justement, alors, c'est réintégré dans l'institution. Donc, il y a toujours un mouvement entre l'institution et l'innovation qui se fait en dehors et qui revient et qui rechange l'institution. Et quand vous revenez avec vos idées que vous avez pu échanger avec d'autres chercheurs, vous apportez dans l'institution un élan, un nouvel esprit, etc. Donc, c'est pas contradictoire. Je veux dire, c'est le fonctionnement... normal et très bien d'avoir créé ce réseau Confluence, parce que ça permet effectivement par ces rencontres d'innover, de prendre l'air, mais vous avez aussi besoin de l'institution parce que vous avez votre cursus, parce que le matériel, l'équipement dont vous avez besoin, il est quand même bien dans un labo, il ne peut pas être partout chez vous, dans votre chambre ou dans votre garage. Voilà.
Enfin, en fait, je peux être que d'accord, mais c'est d'ailleurs toute la difficulté, c'est un peu comme ça que je l'ai introduit, d'essayer de faire de la connexion et de la multipolarité, voilà, de l'accélération, une règle, en fait. Et c'est un peu ce à quoi nous, on est confrontés sans cesse, que ce soit au niveau de nos intérêts personnels et du plaisir qu'on a à diriger ou pas diriger, que ce soit au niveau des institutions qui essayent de garder pour elles, notamment les universités, qui essayent de nous affilier régulièrement à elles, ou alors de ne pas nous soutenir si on ne s'affilie pas. Donc du coup, on a toujours cette tentation d'être attaché. Donc c'est quelque chose auquel on est confronté sans cesse, c'est sûr. Et évidemment, c'est pas... Peut-être que j'ai été trop critique envers les institutions universitaires, parce que c'était un peu le jeu de la première partie, même si elles m'ont permis tout simplement de faire ce que je fais. Donc évidemment qu'elles méritent aussi une reconnaissance certaine. Mais voilà, c'est toujours l'entre-deux qui est délicat à trouver. Et je pense que cet entre-deux, il est d'autant plus facile pour nous à trouver qu'on n'est pas des acteurs très légitimes. Parce que regardez, je suis à peine doctorant... L'association, on n'est que des doctorants et c'est pas jeunes chercheurs. D'ailleurs, c'est un terme qu'on réserve pas toujours aux doctorants, qu'on confère souvent plus aux maîtres de conférences ou aux gens qui commencent leur carrière. Donc on est tout de suite déjà dans une espèce déjà de retournement de stigmate. Qui est, donc du coup, nous, pour nous, c'était facile d'avoir cette stratégie périphérique aussi. On en est conscient.
Merci. Oui, parce que peut-être qu'après, il y aura d'autres... On passe tout de suite à l'intervention suivante de Stéphanie Vergniaud, c'est ça ? Alors, vous allez nous parler de l'entrepreneuriat créatif à France Business School, qui est une école qui est située notamment sur le campus de Poitiers, mais qui a aussi d'autres antennes ailleurs. Alors, vous êtes professeur de stratégie des organisations au département de management, stratégie et système. Voilà, et vous avez une mission, vous êtes chargé de mission en ce moment auprès du directeur général, si j'ai bien compris.
Oui.
Et c'est de ça dont vous allez nous parler un petit peu aujourd'hui.
Oui, je vais surtout. Oui. D'abord, d'habitude, j'écoute, hein, d'habitude, je suis là. C'est la première fois que je suis de ce côté, donc je suis un petit peu impressionnée. Voilà, je vous remercie beaucoup de ce que vous avez évoqué, parce que j'ai l'impression qu'on essaye de faire avec nos étudiants de l'institutionnalisation des connexions, sans le savoir, ou peut-être en le sachant, mais un tout petit peu seulement. Et donc, si vous m'autorisez, je voudrais simplement vous parler comment quelle était notre démarche pour faire de ces étudiants des entrepreneurs créatifs. Bon, on a fait des choix. C'est vrai que dans une école de commerce, on a tendance à imaginer que les gens ne font que des matières propres au management, à la stratégie, à la logistique. Eh bien, on a fait un pari différent. Et donc, je vais vous montrer comment les étudiants sont tenus de passer par un module qui dure un semestre et qui n'a rien à voir avec le management propre et qui ressemble beaucoup à ce que vous avez décrit. Et ça me fait plaisir parce que finalement, synchroniser les flux, c'est bien, quoi. C'est un petit peu l'idée qu'on a eue. Alors, c'est un PowerPoint qui est un petit peu un peu pro, un peu professionnel pour faire de la... Mais on va je descends comment ? On y va ? Il est très beau, ils ne sont pas comme ça chez nous. Ils sont pas tous comme ça. Je descends où ? Sur le haut, sur cet ordinateur.
Oui, avec la petite. J'ai vu qu'il l'utilise.
Je redescends. Ok. Ah, mais c'est...
Ou le 2, peut-être la flèche du 2.
Ça ? Voilà. Alors, l'objectif. C'est de faire de ces étudiants des entrepreneurs, des entrepreneurs créatifs. Pour avoir fréquenté beaucoup l'espace Pendes France, on se rend compte que les mondes sont très cloisonnés et que ce sont des étudiants souvent qui ont un langage économique ou de management très correct, mais qui n'ont pas beaucoup d'idées sur la science, sur leur environnement, et on va simplement rapidement vous montrer comment on a essayé de combler ce déficit. L'idée, c'est de comprendre le monde, hein, ces bouleversements d'abord. On ne peut pas être entrepreneur si on n'y comprend rien. De respecter les hommes et la planète et saisir les opportunités. Alors, c'est des mots, hein, ça, tout le monde dit la même chose, mais on a essayé de les mettre en place. Nous avons un nouveau directeur de ce groupe, hein, puisque c'est 5 écoles de commerce qui se sont mises ensemble, qui marqué, j'avais des prédispositions qui décoiffent énormément et qui veut nous faire sortir du cadre. Ça fait du bien. Et je crois que j'ai déjà appris à sortir du cadre ici et on continue à le faire. On a beaucoup de plaisir à faire. On a refait complètement les programmes. Et dans ces programmes, on essaie effectivement de sortir de ce qui a pu se faire jusqu'à là en termes de vision, en termes de cadre. Donc déjà, on a mis en place un mode de sélection qui est basé sur des compétences. Et on recherche beaucoup chez les étudiants. On teste par des faits, on leur demande des faits propres à leur attitude à la curiosité, par rapport à l'innovation, par rapport au changement. On est plus intéressé par des étudiants qui ont cette velléité de pouvoir effectivement innover. Alors, les innovants ne sont pas forcément des gens qui aiment travailler en groupe et qui ne sont pas forcément propres au changement, mais ils sont utiles à un groupe, ceux qui sont curieux, ceux qui aiment le changement. Bien sûr, on leur demande d'être orientés objectifs, mais il est évident qu'on va rechercher chez eux des qualités qui sont un petit peu en dehors du cadre actuel de ce qui est demandé dans d'autres écoles, pour le simple fait qu'on voudrait effectivement qu'ils sortent, qu'ils fassent des créations. Et je vais vous montrer à quel moment on leur demande effectivement d'être Donc on commence par leur dire qu'il y a, c'est une évidence, on est dans un new world, et qu'il faut découvrir ces mondes, et on ne peut rien faire si on ne découvre pas ces mondes. Et donc pendant toute la première partie du semestre, eh bien, ils vont faire le forum des nouveaux mondes, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre ce qui se passe, ils vont avoir des conférences tous les soirs. C'est des conférences qui se font dans les différents campus, qui sont retransmises. Ils vont tweeter, se poser des questions. Ils vont avoir quelque chose sur le laboratoire des sciences. Ils vont faire la face cachée de l'Internet. On va leur apprendre à faire de la cartographie des controverses. Je pense que c'est des choses que vous connaissez bien, mais nous, pas tant que ça. La pensée design. Et puis, quelque chose dans lequel j'interviens, c'est la fabrique de l'innovation, dans lequel on va effectivement à la fois parler d'innovation, mais on va parler d'une notion qui s'appelle le business model, que vous connaissez probablement, où c'est pour qualifier l'organisation d'une entreprise, quels sont ses clients, quels sont ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, à quelle vocation, performance économique ou performance sociale. Et donc, on leur demande d'imaginer des business models qui soient décapants. Quand on parle de Grameen Danone, on s'imagine que leur business model n'a rien à voir avec ce que était Danone préalablement. On leur demande effectivement d'imaginer comment on peut construire des business models qui correspondent davantage à la réalité. Et puis, pendant tout le premier semestre, effectivement, ils vont travailler comme ça. Ils ont des cours le matin, très peu, une heure et demie. Et puis, ils sont mis en tutorat. Donc, tous les soirs, ils ont une conférence différente. Et puis, ils vont avoir un projet créatif à réaliser qui va être du domaine de d'un business model créatif qui pourrait répondre à la fois à des variations économiques et sociales. Ça va, je ne vais pas trop vite et je ne suis pas trop inintéressante.
Très bien, très bien.
L'objectif, c'est de se dire, effectivement, il faut qu'ils aient un vocabulaire de sciences dures, parce que il faut comprendre ce qu'il se passe, il faut être capable de lire un certain nombre de choses pour pouvoir effectivement créer derrière des business models qui les mettent en valeur. Il y a un tel souvent écart entre les innovants et ceux qui réalisent les projets. On voudrait effectivement qu'ils soient capables d'aider à mettre en place des projets innovants. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui se mettent en place parce que quelquefois ce n'est pas le même métier, et on voudrait qu'ils soient capables de le faire et surtout comprendre les chercheurs qu'on a souvent rencontrés et qui nous permettent effectivement de faire avancer la croissance peut-être un petit peu. Au moins une croissance, pas forcément celle qu'on a connue jusqu'à là. Donc voilà un petit peu ce qu'ils font pendant un semestre. C'est quelque chose de différent, c'est des domaines qu'ils ne connaissent pas, et ça peut être effectivement considéré comme des domaines qui ne soient pas des domaines de gestion. Le deuxième semestre, ce qu'on appelle escale 2, ils vont être dans une situation de new business, new leader, c'est-à-dire on va leur demander d'acquérir des savoir-faire, mais ça ne va pas être des savoir-faire, des cours, en leur disant, voilà, il faut faire du contrôle de gestion, etc. Non, on va les mettre dans une situation où ils en ont besoin. Et donc, on va créer un petit incubateur dans le cadre de cette école. Et l'idée, c'est qu'ils aient à créer carrément un projet dans lequel ils vont essayer pour avoir deux approches, l'approche entrepreneuriale et surtout l'approche intrapreneuriale. Donc, ils vont, certes, avoir une démarche marketing, une démarche de facialité, une démarche de tous les critères de management bien, bien connus, mais ça sera toujours dans le cadre de leur projet. C'est-à-dire qu'ils iront chercher ces connaissances parce qu'ils en ont besoin, et donc c'est pour conduire leur projet. Ils vont avoir à créer ce projet, et nous avons déjà, depuis un certain temps, créé ce qu'on appelle Créateam, c'est-à-dire la possibilité pour les étudiants de créer des projets. À Châtellerault, le 22 novembre, les étudiants vont présenter 50 projets que des gens qui veulent effectivement se lancer dans l'entreprise vont venir auditer sous forme d'un speed meeting. Et donc, effectivement, ils vont défendre un projet et des gens financés ou pas vont vouloir les reprendre. C'est pas dans l'irréel, c'est vraiment des vrais projets. Alors, ce que je peux regretter, c'est que c'est pas des grands projets technologiques, ça reste encore des projets tournés vers le service ou des choses qui reproduisent un peu des modèles déjà existants, mais je rêve d'un temps où ils seront vraiment capables de s'associer avec des scientifiques pour effectivement faire des binômes de création de ce genre de choses. Simplement, je ne veux pas vous embêter longtemps avec ça. Donc, il y a à la fois une création obligatoire d'un projet et puis quelque chose qui rentre à part entière dans leur évaluation, c'est des projets sociétaux. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils réussissent à... J'y suis, là. Ils vont devoir, excusez-moi, j'arrive. Ils vont devoir faire des projets sociétaux, des projets citoyens, parce qu'effectivement, on n'est pas en dehors du contexte territorial. Il faut effectivement qu'ils soient capables de voir qu'un business model, ça peut être un social business model, peut être aussi créateur de valeur, de performance économique, mais aussi de performance sociale. Et donc, on leur demande de réussir des projets sociétaux, des projets citoyens. Et si vous avez des projets sociétaux et des projets citoyens à développer, on est preneur, parce qu'effectivement, nous voulons absolument que nos étudiants soient proches d'une réalité territoriale. Toujours un peu pour les décoiffer, nous avons la chance d'avoir deux campus à l'étranger. Nous avons deux campus en Chine et dans leur scolarité, il est tenu qu'ils y passent pour aller emmener des projets nationaux en Chine. Ils seront tenus effectivement d'y passer 2 mois et donc effectivement, ils sortiront un peu de cette formation avec des connaissances qui sont de nature autre que managériale, une aptitude à se dire quand je veux créer un projet, ben, il me faut être très bon dans les matières managériales et aussi l'aptitude à pouvoir s'adapter à un marché, le comprendre et aller vivre à l'étranger. Voilà. Voilà, je peux vous dire plein d'autres choses, mais je suis assez fière de ce projet, probablement parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup fréquenté cette institution. Je me suis souvent venue à l'espace Mendès France et c'est vrai que l'esprit scientifique peut être appliqué à d'autres formes d'enseignement. Et donc, j'espère que nos étudiants vont être, grâce à l'institutionnalisation des connexions, des gens performants et surtout créateurs de valeur pour une société différente. Voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Est-ce que moi j'aurais une toute petite question tout de suite?
C'est cher.
Est-ce que vous avez un retour des étudiants sur cette expérience?
Alors c'est vraiment cette actualité, oui. Puisqu'ils sont en train de vivre l'escalade, ouais. C'est-à-dire il y a des soirs où ils en peuvent plus. Les parents quelquefois réagissent de façon assez étrange. On a eu des rencontres avec les parents qui disent mais ils n'ont pas de travail parce qu'effectivement ce sont des projets, ce sont des latitudes. Enfin, il faut qu'ils écoutent des conférences, mais il faut qu'ils fassent. On a un truc tout bête, un QCM après chaque conférence parce qu'il faut effectivement qu'ils aient compris quelque chose et au moins qu'ils travaillent. Mais effectivement, ils travaillent différemment. Ils travaillent toute la journée. Ils se sentent plus adultes. Mais ils sont épuisés, c'est vrai. C'est peut-être beaucoup. On change de contexte, de savoir assez souvent. Mais bon, s'ils en gardent pas tout, c'est pas grave. Hein, ils reviendront dessus. Mais c'est vrai que c'est un plongeon dans quelque chose qu'ils ont choisi, mais qui est difficile. C'est long, c'est lourd. Et ils sont dans des salles. Il n'y a pas de salle de classe. Hein, c'est des salles où il y a des box, etc. Et ils sont... Il y a une collaboration entre eux, il y a une entraide entre eux qui me paraît bien sympathique. Mais ils sont fatigués et je crois qu'une fois cette escale faite, ils passeront de bonnes vacances de Noël à se reposer.
Voilà. Merci.
Une petite question. Oui, bonjour, Julie Rouge. Juste une petite question qui m'interroge sur la question du chef-d'œuvre final. Vous pouvez nous en dire plus.
Le chef-d'œuvre final, oui. C'est un peu la logique des compagnonnages. Hein. C'est un petit peu l'idée qu'il faut qu'ils aient. Le chef-d'œuvre final, eh bien, c'est l'ensemble de la formation et un projet. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sortent avec un vrai projet. On serait très, très désireux qu'il n'y ait pas 2%, 10% d'entrepreneurs derrière, mais qu'il y en ait au moins plus de 50%. Donc, le chef-d'œuvre, c'est tout ce qu'ils ont fait, l'ensemble des modules qu'ils ont pu suivre, l'ensemble des projets sociétaux environnementaux et un projet qui tient la route entrepreneurial.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions?
Nous parlions hier des incubateurs et pépinières d'entreprise. Quelle est votre relation avec les incubateurs et pépinières d'entreprise du Poitou-Charentes?
Alors, il y avait l'ambition au départ, pour être très honnête, que chaque campus ait un incubateur. Et puis, on a regardé autour de nous, et puis on travaille déjà avec Étincelle, on travaille déjà avec le CEI, on travaille beaucoup, enfin, qui n'est pas un incubateur, mais on travaille déjà avec nos partenaires incubateurs, et je crois que c'est un vrai métier. Et je crois que d'installer comme ça, paf, parce qu'on est FBS, un incubateur, c'est un métier, c'est un apprentissage. Et donc, on préfère travailler en collaboration plutôt que de créer de toutes pièces un incubateur. Bien sûr qu'il y a une compétence. On avait fait une conférence récemment sur l'internationalisation des PME innovantes. Et on avait découvert, effectivement, tous ces créateurs, tous ces chercheurs. Et donc, je crois qu'il faut des institutions de métier. Et on apprendra au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on est dans une nature de collaboration. Et effectivement, on met à disposition nos projets pour que... si les étudiants ne veulent pas le développer tout de suite, parce qu'il y a un lobbying grand groupe qui nous en pique beaucoup, et donc ils peuvent effectivement confier leurs projets et peut-être les reprendre plus tard.
Moi j'ai une question et une information. Donc la question c'est, au-delà des pépinières, les réseaux, par exemple le réseau du CJD, et on s'est retrouvé l'autre jour, donc le CJD, Centre des jeunes dirigeants, pourra peut-être en dire plus que sur ce réseau, mais qui est un peu le poil à gratter du patronat français, on peut dire ça comme ça, pour le résumer assez rapidement. Et l'information, c'est que les 5 et 6 décembre, à l'Université de Poitiers, aura lieu les journées de l'OPPE, donc qui est l'Observatoire, je crois, sur apprendre à entreprendre, ou entreprendre pour apprendre, peu importe dans quel sens on prend, mais c'est apprendre à entreprendre, et le thème c'est l'innovation pédagogique et l'entrepreneuriat social au cœur des débats. C'est donc 5-6 décembre, et c'est un colloque national. Voilà. Donc c'est cette question aussi d'apprendre à entreprendre, et la place du CJD ou d'autres réseaux d'ailleurs dans cette affaire.
Alors effectivement, on a toujours travaillé avec le CJD. Le CJD organise tous les ans un concours de performance économique et sociale pour les entreprises de la région. Nos étudiants y participent régulièrement. Ils y participent parce qu'ils accompagnent les membres du CJD dans les entreprises qui postulent pour ce concours. Et ils sont partie prenante quand il faut décider de quelle est l'entreprise qui a le plus une orientation technologique, une orientation écologique, une orientation sociale. Et effectivement, il y a des remises de prix tous les ans auxquelles nous participons. Surtout, il y a un master qui est spécialisé en RSO, qui à chaque fois, sur nos petits étudiants de deuxième année, gagnent des points, estiment mieux les compétences des entreprises, mais ils se défendent pas si mal que ça. Et l'année dernière, effectivement, on est toujours associé à ces concours de performance. Toujours.
D'accord, une question ?
Et on s'entend bien avec le CJD, ça vient dans notre vision des choses.
Okay. Bonjour, moi c'est Siegfried Burgeau, je suis salarié du CRIJ et je suis en ce moment, je fais partie d'un collectif qui expérimente un peu le coworking sur Poitiers. Donc ma question, une demande et une info d'ailleurs, voilà tout ça. Est-ce que vous avez travaillé sur cette notion de travailler autrement en collaboration avec d'autres et surtout pas qu'entre étudiants mais aussi rencontres plus larges ?
Le coworking, effectivement, a été mis en place dans ce premier module que je vous décrivais, c'est-à-dire à travers la fabrique de l'innovation ou autre. À chaque fois, il y a une tâche à réaliser, donc il y a toujours un tuteur avec, qui est un coach. Mais ce coach n'est pas... Nous ne sommes pas coach. Nous demandons, par exemple, il y a quelqu'un de chez Étincelle qui est coach. On cherche nos coachs dans un autre univers parce que ça apporte beaucoup aux étudiants. Et par l'intermédiaire des conférences qui a lieu tous les soirs, ils sont tenus de les interviewer avant et ils rencontrent aussi beaucoup d'autres gens. Bien sûr qu'il ne faut pas que nous restions entre nous. Un prof d'école, c'est bien, mais il y a effectivement besoin de beaucoup de voitures et tellement de richesses autour. Vous avez raison.
Enfin, Étincelle, ça reste quand même dans l'entrepreneuriat. Je pensais élargir plus large dans le culturel, l'associatif, le social, peut-être, je sais pas.
Alors l'associatif, nous, par nos projets, les projets sociétaux, les projets citoyens, les étudiants travaillent avec eux. Hein,
d'accord, ok.
Bien sûr.
Ah oui, bah, j'en ai entendu parler d'ailleurs. Donc du coup, une question, moi, est-ce que il est possible qu'on se rencontre
pour
qu'on échange là-dessus, parce que voilà.
Avec plaisir.
Donc c'est très bien. Et j'avais un autre truc. Ah oui, une autre question par rapport à tout ce qui est atelier de fabrication. Vous savez, on entend à la mode Fab Lab, Makerspace, etc.
Doucement.
Pardon. Il existe des choses qui arrivent sur Poitiers et qui sont ailleurs depuis longtemps, mais à Poitiers, c'est normal, on a un petit peu de retard. Tout ce qui est lab, donc des labos de fabrication, donc Fab Lab, Makerspace, tiers-lieu dans les endroits dans lesquels on peut faire plusieurs choses. Est-ce que vous abordez aussi cette question de la bidouille, de la fabrique, de l'électronique ?
Je ne crois pas.
Vous ne croyez pas. Donc mais on en parlera.
Mais par contre, je crois que ça pourrait être un apport dans un module sur la science, par exemple, ou sur les techniques.
Oui, d'accord. Ok. Mais non, mais vous pourriez avoir des étudiants qui s'intéressent à ce genre de questions.
Oui, oui.
Ouais, oui, sûrement. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais, okay.
Parce qu'il y en a qui sont vraiment décidés à comprendre ce qui se passe techniquement, technologiquement et scientifiquement pour pouvoir faire quelque chose plus tard.
D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Moi, je voulais juste faire une petite annonce. Patchworking.fr, si vous avez envie de faire une expérience de coworking et de visiter des lieux sur Poitiers, vous pouvez venir vous inscrire. C'est une fois par mois, le dernier jeudi de chaque mois. Merci.
J'en profite. Merci. Non, mais merci pour l'information parce que, en fait, je pense que à travers ces deux journées, le débat qui s'instaure, enfin que moi je souhaiterais d'ailleurs instaurer, c'est que, en fait, on avait hier d'ailleurs une figure assez intéressante, cette triptyque du militant associatif, chercheur, politique, puisqu'avec Jean-Pierre Worms, on avait ces trois figures-là, rassemblant les mêmes individus, et on sait bien que c'est difficile de réunir le triptyque quand on veut essayer de le faire. Et la deuxième figure, c'est l'entrepreneur et le culturel. Très bonne question. Et aujourd'hui, dans la salle, si je demande combien y a-t-il d'entrepreneurs, il n'y en a certainement pas beaucoup. Et pourtant, moi, j'ai un dialogue assez... Tu parlais du CJD, avec le CJD, qui est intéressé par ces questions. Mais on sait bien que les rythmes de vie des entrepreneurs ne sont pas du tout les mêmes que les rythmes de vie des gens qui sont ici. Donc, comment est-ce qu'on arrive à relier, voilà, à créer des passerelles? Je crois que c'est vraiment la question. Là, je crois qu'on l'amorce, hein, c'est intéressant. Mais il me semble qu'on peut aller beaucoup plus loin. Enfin, je ne sais pas comment vous sentez les choses là-dessus.
Les membres du CJD, quand ils viennent travailler avec nous, ils sont rajeunis, hein. Ils sont contents comme tout de travailler. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait des entretiens chez nous, mais c'est très, ça donne de l'espoir. Ils sont bons, ils sont intelligents, pas tous, hein, mais enfin beaucoup, et désireux de faire quelque chose. Et les membres du CJD, ça donne de l'espoir sur un avenir qui est très orienté CJD, c'est-à-dire RSO.
Merci.
Oui. Alexis Durand-Janson, association réseau Via Paysage et agence Primaterra. Simplement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets sociétaux, concrètement?
Alors, des projets sociétaux, il y a des associations, il y a des associations avec des vraies associations de nature par rapport... aux paralysés de France. Il peut y avoir, ça peut être tous les domaines qui ont pour vocation d'avoir autre chose qu'une performance économique comme but. Vous me prenez au piège, j'aurais dû apporter une liste. Mais si vous me donnez votre carte, je vous donnerai tout ce qu'il y a, tout ce qui existe.
Je propose même de nous envoyer une information qu'on rediffusera.
Avec plaisir, parce qu'il existe un beau petit livret pour ça.
Aucun problème.
Donc, merci beaucoup pour cette présentation.
Merci d'avoir écouté.
On va passer à la suite des discussions avec une présentation de Marie-Noëlle Carré, qui va nous parler des territoires de la créativité à Buenos Aires, avec la maison des éditions Cartonera, si je ne me trompe pas. Alors juste, je pensais à une chose aussi dans les informations. Ce que vous avez présenté me rappelle beaucoup aussi les masteriales organisées par le SAFIR à l'Université de Poitiers, où les étudiants aussi en master sont invités à se plonger dans l'univers du projet et à se mettre en danger un petit peu justement dans une expérience comme ça interdisciplinaire pour construire.
Il y a la notion de mettre en mise en danger qui est importante, vous avez raison.
Oui, oui, oui. Alors, Marie-Noëlle Carré, donc vous êtes à terre à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris 3, voilà. Membre de l'Institut des hautes études d'Amérique latine et du CREDA, qui est le Centre de recherche et de documentation sur les Amériques. Voilà, alors je vous laisse maintenant la parole pour nous parler un petit peu d'un autre continent. Donc, on a fait un petit tour sur la Chine tout à l'heure. Donc maintenant...
Ah, attendez, j'installe juste...
Vous préparez, alors je vais continuer à vous présenter un petit peu, vous avez un master 2, vous avez travaillé sur les systèmes territoriaux, le développement durable et l'aide à la décision, et vous préparez une thèse si je...
Je suis docteur depuis mercredi.
Oh là là, félicitations. Alors une thèse sur les déchets à Buenos Aires.
Oui, et c'est un peu le point de départ de mon travail. Donc déjà, je vous remercie, je remercie l'Espace Pierre Mendès France de m'avoir invité à participer à cette journée, qui est un peu à la marge des travaux que j'ai développés depuis 4 ans, mais qui s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle recherche que j'ai commencée depuis le début de l'année dernière, depuis janvier 2013, et qui porte justement sur l'édition Cartonera. Alors, donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter une réflexion sur un cas d'intelligence culturelle. Je pense que ça se rattache plutôt bien à ce que vous avez présenté, ce matin, et tout particulièrement celui de l'édition Cartonera en Argentine, dans une métropole latino-américaine, qui a émergé dans des conditions particulières sur lesquelles je vais revenir. Alors, je ne suis peut-être pas la personne la plus indiquée pour vous parler de l'édition Cartonera. Il aurait fallu faire venir les gens qui ont été à l'origine de ces initiatives. Mais ceci étant très, très loin, à plus de 10 000 km, peut-être que je peux me faire leur porte-parole, tout au moins pour présenter leur activité. Donc, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par édition Cartonera ? Donc, je vous ai apporté un certain nombre de livres, donc les produits de l'édition Cartonera, et ce que vous pouvez voir sur l'image. Donc, ce sont des livres, souvent de littérature, de poésie contemporaine, qui sont fabriqués donc avec une impression sur du papier recyclé, une impression artisanale, et une couverture en carton, avec une présentation donc du titre et du nom de l'auteur, donc peint à la gouache avec des pochoirs de manière tout à fait artisanale. C'est la marque de fabrique de l'édition Cartonera. Donc dans quel contexte ont émergé ces petits objets qui sont finalement assez peu courants, qui se développent un peu en France, mais j'en parlerai à la fin, surtout en Amérique latine. Donc, il se développe, en tout cas à Buenos Aires, en Argentine, dans le cadre d'une crise très importante, à la fois sociale, économique et politique et institutionnelle, qui a eu lieu à la fin des années 1990. Donc, à ce moment-là, à la fin des années 1990, la principale répercussion de cette crise sur le secteur de l'édition, eh bien, c'est celle de l'augmentation des prix des livres et l'impossibilité pour les auteurs de publier aussi bien qu'ils auraient pu le faire quelques années auparavant. Mais l'Argentine est en cela assez spécifique en Amérique latine, dans la mesure où elle dispose d'un niveau d'éducation qui est plus élevé, de classe moyenne plus importante, au sens d'un segment de personnes qui ont eu un plus fort pouvoir d'achat, une plus forte capacité à consommer. Et donc, en fait, finalement, l'Argentine, elle occupe une position assez spécifique dans la consommation de livres aussi. Donc, il ne s'agit pas du plus gros marché potentiel dans le cadre de l'édition en termes de quantité, mais elle émet énormément d'écrivains de prestige qui ont acquis une certaine renommée internationale. J'en citerai quelques-uns tout à l'heure. Donc les grandes villes, bien sûr, en Argentine, et notamment Buenos Aires, sont des pôles culturels latino-américains, avec une influence qui dépasse très largement le cadre argentin, donc avec le théâtre, la danse, la littérature et la musique. Mais donc, dans quelles conditions émerge cette édition Cartonera ? Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un produit de l'informalité. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je reviendrai un petit peu plus précisément par la suite. C'est un produit de l'informalité parce qu'elle est issue en fait d'un ensemble d'agencements spécifiques avec une mobilisation des territoires urbains. Donc c'est là que la question des territoires de la créativité intervient. Comment on fait pour mettre en place une initiative culturelle qui a des répercussions au-delà de l'Argentine dans des territoires urbains où, a priori, il y a un certain nombre d'institutions, de cadres et de normes pour produire de l'édition qui existent, hein, qui sont déjà très bien formalisées. Mais elle implique aussi des acteurs extrêmement précaires qui luttent pour l'accès au logement, à l'éducation, mais aussi au moment de la crise de 2001, cherche au jour le jour les moyens de se nourrir et d'avoir un petit revenu de survie. Donc, en fait, finalement, l'informalité dans le cadre des territoires de la créativité et plus particulièrement le cadre de l'édition, elle apparaît comme un moyen d'ouvrir le champ des possibles. Et donc, c'est ce champ des possibles qui sera exploré dans cette présentation pour montrer comment l'émergence de cette édition a aussi favorisé un accès à la publication, à l'écriture, mais aussi à la diffusion de la production intellectuelle. Donc, pour commencer... Voilà, je voulais vous présenter un petit panorama de l'édition Cartonera en Amérique latine. Avant de revenir sur le cas plus spécifique de Buenos Aires, ce que vous voyez, donc les points orange, ce sont le nombre en fait de maisons d'édition Cartonera par pays. Donc vous avez un certain nombre de pays qui produisent des maisons d'édition Cartonera, donc qui produisent ces petits ouvrages, avec une forte concentration au Mexique. Mais l'intérêt de travailler sur l'Argentine et tout particulièrement sur Buenos Aires, c'est que c'est là qu'est né en fait le mouvement de l'édition Cartonera, et tout particulièrement à partir d'une petite maison d'édition qui s'appelle Eloisa Cartonera. Donc comment est née cette Eloisa Cartonera? Elle est née au cours donc de cette débâcle de 2001, où une forte érosion des droits sociaux et puis l'augmentation de la précarité aussi au cours d'une décennie ultralibérale, celle des années 90, a déclenché un raz-de-marée social très très important, avec 50% de la population sous le seuil de pauvreté, et une crise dans le domaine, entre autres, de la création littéraire. Alors, en ce qui concerne la crise socio-économique, je vous ai mis quelques images. Alors, d'abord, à droite de l'écran, vous avez cette image des cartoneros. Donc, ce sont des individus qui se sont mis à récupérer les matériaux recyclables dans la rue, donc pour les revendre et pour survivre au quotidien, donc papier, carton, plastique. Bon, bien sûr, cette émergence de la récupération, puisqu'auparavant elle n'existait presque pas, s'est accompagnée donc d'une dévaluation du peso qui a eu un impact très important sur l'économie des Argentins. Ils ont vu leurs économies divisées par trois. La chute du PIB, bien sûr, de près de 11%, mais aussi l'ouverture d'un marché du recyclage dans la mesure où il devenait de plus en plus difficile d'importer des matières premières et où c'était bien plus intéressant de se mettre à récupérer papier, carton, plastique et de les recycler. Et donc, sur la carte que vous avez à gauche de l'écran, eh bien, vous voyez donc cette concentration de la pauvreté qui est extrêmement importante et qui a entraîné les mouvements de ces cartoneros, donc qui viennent essentiellement des banlieues de Buenos Aires. Donc c'est cette espèce de cercle plus orange que vous voyez sur la carte, avec un taux de pauvreté qui a dépassé 50% en 2001, qui a un tout petit peu diminué, mais pas énormément. Et donc des individus qui tous les soirs prenaient le train pour s'acheminer vers le centre de la ville et aller récupérer les matériaux recyclables là où ils étaient le plus nombreux, c'est-à-dire dans les quartiers d'affaires et les quartiers de bureaux. Voilà, donc c'est un peu ce mouvement donc, qui a concerné quand même près de 30 000 personnes dans toute la métropole, une métropole de 13 millions d'habitants, donc en fait une partie de la population assez importante, qui a entraîné une réflexion dans le cadre dans les cercles intellectuels argentins autour de ce qu'on pourrait faire avec justement ces matériaux recyclables. Alors pourquoi cette réflexion ? Déjà, elle s'articule avec une difficulté donc croissante des écrivains à accéder au marché de l'édition. Donc les années 90, c'est un moment où le marché de l'édition se reconfigure en Argentine. C'est un marché qui se concentre très fortement. En 2007, 20 maisons d'édition concentraient 75% du marché. Et donc, cette spécificité argentine n'est finalement pas si spécifique à l'Argentine, puisqu'au Mexique, on constate que 10 établissements assuraient plus de 75% de la production au même moment. Donc, ces maisons d'édition qui concentrent la plupart de la production sont de très grandes maisons d'édition multinationales, donc d'origine espagnole ou mexicaine, Alfaguara, Prometeo. Et donc, elle ne publie qu'à condition d'assurer d'importants tirages. Donc, en fait, c'est un moment où les petites maisons d'édition disparaissent en Argentine dans les années 90. Et donc, cette situation produit des conditions de publication très, très contraignantes. Elles entraînent une production plus importante de best-sellers, alors locaux et nord-américains, d'ouvrages scolaires notamment, des romans de qualité moyenne, mais dont la vente est favorisée finalement par les liens avec la télévision. Et enfin, donc, à cette évolution, avec une concentration du marché, la dévaluation du peso en 2001 marque un point d'orgue, puisqu'elle entraîne une profonde réorganisation du secteur. Et puis, cette dévaluation du peso entraîne, d'une part, l'augmentation du prix des livres, mais aussi une diminution du prix du papier, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le recyclage a fait que produire du papier est devenu possible en Argentine. On n'importait plus de matières premières du Brésil ou des États-Unis, mais on s'est mis à produire du papier recyclé en Argentine même. Donc finalement, enfin, les jeunes écrivains, ceux qui commencent à produire à partir des années 2000, se voient dans cette situation où ils veulent publier, mais ils se trouvent face à un marché contraint puisqu'ils ne peuvent pas produire des tirages suffisamment importants pour capter l'intérêt des maisons d'édition argentines. Et donc cette littérature d'avant-garde qui est assez expérimentale peine à trouver des canaux de diffusion et a recours à des solutions inventives justement pour contourner ces difficultés. Donc c'est le moment des années 90, c'est le moment où parallèlement au Brésil, en fait, la literatura de cordel connaît un nouveau souffle à partir des années 90. Donc qu'est-ce qu'on entend par literatura de cordel? C'est en fait un terme qui est inspiré de la littérature de colportage qui existe en Europe depuis le 16e siècle et qui connaît donc un nouveau souffle, notamment au Brésil. Donc pourquoi? Parce que c'est une littérature qui est imprimée sur du papier déjà recyclé au Brésil dans les années 90, qui ne fait pas l'objet d'un travail de cartonnage très important. Bon, on l'accroche à des fils avec des pinces à linge, et puis en fait c'est un moyen d'accéder à la littérature qui est relativement facile pour les classes populaires. Et donc deux artistes argentines redécouvre cette technique donc, qui est inspirée de la littérature de colportage et décide de l'importer en Argentine. Donc il y a une circulation finalement des modèles de la littérature populaire. Alors donc effectivement, les débuts de la maison d'édition Eloisa Cartonera commencent comme ça. Et donc Washington Cuculto, qui est l'un des auteurs contemporains à l'origine de cette maison d'édition Eloisa Cartonera, dit que concrètement, au début, les débuts de la maison d'édition, c'était une photocopieuse et du carton. Donc du carton récupéré dans la rue, qui était acheté justement aux cartoneros, ceux qui récupéraient ce matériau pour vivre. Et une photocopieuse, pourquoi? Parce que ce n'était pas possible d'éditer des textes. Il fallait photocopier des documents qui existaient déjà en demandant les droits d'auteur aux écrivains et en s'assurant de leur bonne volonté. Donc finalement, cette initiative qui est un peu brinque-ballante au début repose sur un décloisonnement social et artistique. Donc un décloisonnement social et artistique qui s'inscrit directement dans les territoires à Buenos Aires. Alors là, j'ai fait un petit zoom. On est dans le centre de Buenos Aires, dans un espace qui est le plus parcouru, notamment par les touristes. Quand on va à Buenos Aires et qu'on est touriste, on va dans ce quartier qui est celui de La Boca. Donc c'est un peu un cœur historique de Buenos Aires, l'ancien port, celui où arrivaient l'ensemble des immigrants italiens, espagnols, et où ils travaillaient justement soit dans les industries, soit au déchargement des matériaux. Donc voilà, avec quelques images que je vous ai indiquées pour donner un petit peu plus de chair à tout ça. Donc bien sûr, l'image la plus connue, c'est celle du tango. Donc du tango dans une rue particulièrement parcouru donc par les touristes. À côté, l'espèce d'araignée gigantesque, c'est un centre culturel qui est financé par des très grandes entreprises argentines. Et puis pour les Argentins et surtout pour les habitants de la ville de Buenos Aires, La Boca, donc ce quartier, c'est celui de La Bombonera, donc le club de foot de Boca Juniors, qui est l'un des clubs de foot les plus connus en Argentine. Mais pour la maison d'édition Eloisa Cartonera, c'était aussi la possibilité de s'insérer en fait dans un espace relativement transité par des gens avec un certain pouvoir d'achat et qui pouvaient comprendre en fait les objectifs de popularisation et d'accessibilité plus importante à la littérature contemporaine. Donc D'une part, ils se sont installés donc, dans ce quartier, c'est l'étoile que vous voyez sur la carte, donc à quelques pas finalement de ce stade de Boca Juniors et puis de tous ces endroits où on peut voir des gens danser le tango. Et ils se sont donc concentrés dans ce lieu pour parvenir à capter une certaine clientèle. Donc le projet, malgré tout, est défini comme social avant tout. Donc ça, c'est le premier objectif du projet d'Eloïsa Cartonera, puisque donc, cette maison d'édition est une coopérative. Ça veut dire que le fruit du travail est redistribué entre tous en fonction de la proportion de travail qui a été fournie. Et donc, c'est cet écrivain qui s'appelle Washington Cucurto et quelques membres encadrants qui ont réussi à capter des cartoneros venus de la rue pour les faire travailler à la production des ouvrages tels que ceux que vous pouvez voir ici. Donc d'abord, le fondateur de Luisa Cartonera se propose d'intégrer par l'art des habitants marginalisés de la métropole. Et vous pouvez les faire circuler. Donc il leur achète le carton trois fois plus cher que dans les entrepôts, ils le vendaient habituellement. Donc ça, c'est un premier pan du projet social. Et ensuite, ils proposent une édition qui est abordable pour tous en vendant les livres à 5 pesos, donc ça veut dire 1 euro, ou alors 10 pesos pour ceux qui sont un petit peu plus travaillés, donc ça veut dire 2 euros en 2011. C'est tout à fait abordable, même pour des gens qui ont très peu de revenus en Argentine. Donc ils rompt en fait avec le coût des livres qui étaient très élevés et donc ces livres qui sont fournis par les maisons d'édition traditionnelles. Alors ensuite, ensuite ils proposent d'avoir recours à une esthétique assez particulière qui encore une fois rompt avec le style proposé par les maisons d'édition conventionnelles puisque c'est une esthétique cumbiera. Alors la cumbia c'est une danse et un style de musique latino-américain. Avec des couleurs très vives. Alors vous avez là à la fois donc l'affiche en fait de la maison d'édition Eloisa Cartonera, celle que vous voyez donc à gauche de l'écran, et de l'autre côté donc à droite des affiches pour des soirées de cumbia. Donc vous voyez que c'est cette esthétique un peu fluo qui a été reprise pour les ouvrages. Et c'est vrai que si vous les voyez, enfin ceux qui circulent, il y en a un qui est mexicain, celui que vous avez là est mexicain, donc c'est une autre esthétique, mais les deux autres viennent d'Argentine et reprennent un peu ces couleurs très très vives. Donc ça c'est un deuxième choix qui a été effectué par la maison d'édition. Donc bien entendu, elle est soutenue par un réseau de designers hein, qui a confectionné les pochoirs à partir desquels travaillent les artisans de la maison d'édition. Et elle a même repris donc, cette esthétique pour peindre en fait, son local, qui était à l'origine un garage dans le quartier de la Boca, et le rendre un petit peu plus visible. Mais surtout, donc, elle s'appuie sur des réseaux de diffusion assez hybrides, en fait, cette maison d'édition Cartonera, parce que, bien entendu, son activité ne s'est pas cantonnée au seul quartier de la Boca, encore moins à Buenos Aires ou même l'Amérique latine, puisqu'elle a recours, en fait, à des réseaux de diffusion et de commercialisation des ouvrages qui est intrinsèque, justement, au fonctionnement de cette maison d'édition. En effet, si ces réseaux n'existaient pas, la maison d'édition n'existerait pas. Et ce que vous pouvez voir sur cette carte, c'est une analyse en fait, de l'origine géographique du catalogue d'Eloisa Cartonera. Donc, j'ai pris les titres qui sont présents dans le catalogue d'Eloisa Cartonera pour observer leur provenance géographique et ainsi en fait, faire émerger le réseau des contributeurs à la maison d'édition. Donc, bien sûr, l'Argentine occupe une très large part, ça c'est évident puisque le réseau est d'abord local. Et en fait, un très grand nombre de contributeurs vient aussi du Chili, du Pérou, du Brésil, du Venezuela, du Mexique et du Costa Rica. Donc l'ensemble des participants et surtout des écrivains a eu recours à son propre réseau de contacts dans le milieu artistique pour étendre en fait, le catalogue d'Eloisa Cartonera. Mais c'est également vrai pour l'ensemble des autres maisons d'édition qui existent en Amérique latine. La plupart des catalogues sont internationaux, en fait. Et c'est une des conditions d'existence de ces maisons d'édition Cartonera. Donc on parle d'un catalogue qui contient environ 120 titres, hein, c'est beaucoup, c'est le catalogue le plus conséquent. Certaines maisons d'édition mexicaines qui sont assez vigoureuses ont environ 30 à 40 titres, donc vraiment Eloisa Cartonera, c'est la maison d'édition la plus grande en ce sens-là en Amérique latine. Et donc l'ouvrage qui a le record de publication, c'est Mil Gotas, donc un ouvrage de César Aira, donc le premier écrivain qui est indiqué ici. Donc César Aira qui est extrêmement prolifique, un écrivain contemporain qui est publié en Espagne, en France, traduit également en français. Et donc cette petite nouvelle qui s'appelle Mil Gotas a été publiée à 1000 exemplaires. Alors ça peut paraître extrêmement dérisoire puisque effectivement dans les très grandes maisons d'édition, la publication moyenne en fait c'est 2000 à 3000 exemplaires, voire 5000 exemplaires. Donc c'est tout petit, c'est extrêmement capillaire, mais ce sont des ouvrages à la fabrication artisanale et chaque ouvrage est différent de l'autre. Alors dans la série des réseaux de diffusion, donc outre ce réseau artistique, les maisons d'édition Cartoneras, donc que ce soit Eloisa ou d'autres, s'appuient sur d'autres vecteurs en fait, et entre autres les foires, donc les salons du livre, et notamment les salons du livre indépendant et alternatif. Donc ce sont des réseaux qui existaient déjà, mais qui ont connu un certain dynamisme au moment où les maisons d'édition Cartoneras se sont développées. Et notamment dans les villes moyennes en fait, de l'Argentine. Donc ça, c'est une mutation importante par rapport à la localisation des maisons d'édition conventionnelles, puisque les maisons d'édition Cartoneras se développent en prenant appui sur un réseau de villes moyennes extrêmement dynamique en Amérique latine, des villes moyennes qui en fait pilotent aussi la mondialisation parce qu'elles ont moins de complexité institutionnelle, elles sont davantage capables de gérer leurs problèmes socio-économiques. Donc ça, c'est un point de la diffusion qui est tout à fait important. Et enfin, donc, elle s'appuie sur des événements artistiques beaucoup plus vastes, comme la Biennale de l'art à Rio de Janeiro, donc, ou alors Arteba, qui est le principal salon de l'art à Buenos Aires. Et elles ont des stands où elles diffusent justement leurs produits, donc ces petits livres confectionnés à la main. Mais ceux-ci bénéficient de plus en plus de soutiens institutionnels étrangers. Donc, par exemple, l'ambassade du Brésil a fourni du papier à Eloisa Cartonera pour qu'elle imprime des ouvrages en portugais, donc avec des titres brésiliens. Mais aussi, donc, elles ont le soutien de l'ambassade de Suède qui a valorisé leur projet en tant que petit projet social. Et enfin, donc, je pense que c'est le plus important quand même. Elles s'insèrent dans des réseaux, donc dans des réseaux d'édition Cartoneras. Tel que celui qui a été mobilisé par la bibliothèque donc de l'université de Madison donc aux États-Unis, qui en 2010 a décidé de rassembler l'ensemble des maisons d'édition Cartoneras. Alors c'est assez paradoxal puisque ces maisons d'édition se situent surtout en Amérique latine, mais elles ont été rassemblées par une bibliothèque états-unienne dans la mesure où c'était la seule qui avait les moyens manifestement de toutes les convoquer et de voir comment c'était possible de les intégrer au catalogue aussi, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et enfin, donc, bon, pour finir, sur le seul cas d'Eloisa Cartonera, elles ont reçu également un prix pour l'engagement social, ce qui est évidemment ce qui prime en fait, dans le cadre de leur activité. Alors pour conclure, on peut poser une question, celle de savoir si un problème a été résolu par une solution originale. Bon, les effets sociaux, même s'ils ont été extrêmement valorisés, en fait, sont assez limités, puisqu'il y a un très très petit nombre d'individus qui étaient en situation de précarité qui participent à ces maisons d'édition. Ce sont toutes petites maisons d'édition, donc avec très très peu d'employés. Mais aussi, donc, je pense que le principal apport, c'est que justement la littérature a été démocratisée et a fait l'objet d'une régionalisation. On est sorti des très grandes villes pour aller vers ces villes moyennes à l'intérieur de l'Argentine et du reste de l'Amérique latine. Ça, c'est vraiment une transformation extrêmement importante qui reste à observer, puisque bien sûr le mouvement est extrêmement récent. Et ces territoires éditoriaux s'en sont retrouvés en reconstruction, dans la mesure où, bien sûr, les très grandes maisons d'édition continuent exister, mais des collaborations et aussi des moyens de diffusion des libros cartoneros ont été établis avec ces très grandes maisons d'édition. Et enfin, donc, un élément tout à fait notoire, c'est celle de la multiplication des maisons d'édition Cartonellas au-delà de l'Argentine et de l'Amérique latine, dans la mesure où aujourd'hui, en France, on compte environ 4 à 5 maisons d'édition Cartonellas. Alors bien sûr, leur implantation n'a pas été sans un certain nombre de problèmes, parce que, comme l'indiquait dernièrement Mathias Reynoso, qui dirige la Guêpe Cartonnière, c'est une maison d'édition qui existe à Paris, une maison d'édition Cartonella. En France, le public est beaucoup moins réceptif à des livres confectionnés avec une couverture en carton récupéré. En fait, on a l'impression que c'est encore un déchet. Alors que donc, dans ses stratégies d'exploration, par exemple en Chine, où il a essayé d'implanter une maison d'édition Cartonella, il disait que c'était beaucoup plus facile parce que les gens comprenaient qu'ils avaient tout de suite affaire à un livre. Donc là, il y a tout un travail de mise en page qui a été fait et surtout de transfert du modèle, d'adaptation du modèle en France, avec un travail plus important sur les couvertures, qui a permis justement de transférer là, ce nouveau modèle alternatif de publication et d'édition. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques?
Oui.
Oui, pardon. C'est un sujet vraiment intéressant. Moi, je m'étais justement intéressé il y a longtemps à l'historique de ça. Vous avez évoqué la Renaissance et la littérature de large diffusion. Enfin, j'imagine que vous avez exploré tout ce que Roger Chartier a écrit sur la littérature grise, parce que ce qu'on oublie souvent dans l'histoire de l'imprimerie en Occident, c'est qu'il nous reste donc les livres de prestige, c'est-à-dire qui étaient le haut de gamme de l'époque, ce qui est toujours le cas. Mais à côté de ça, il y avait au moins autant, y compris sur un plan de rentabilité économique des presses parisiennes, il y avait de la littérature de large diffusion qui était imprimé sur les rognures de pages et dont l'impact a été très 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 important sur l'assimilation de l'écrit par la population, y compris la population non alphabétisée. Parce que il y a un point qui paraît logique, c'est-à-dire que ce sont les gens alphabétisés qui achètent les livres, et en fait c'est faux, c'est-à-dire que la façon dont l'écrit s'est progressivement inculturé dans une société a fait aussi que l'objet, la possession d'un objet, même s'il était dégradé par rapport à un livre de prestigieux, enfin au moins tel qu'on se le représente culturellement, a été vraiment intéressant. Donc il y a eu beaucoup de choses là-dessus sur la littérature de colportage. Les anglo-saxons, notamment les allemands, à partir du phénomène de la réforme, puisque Luther les thèses luthériennes ont été diffusées et les psaumes luthériens ont été diffusés par ce mode-là, c'est-à-dire des impressions de très basse qualité. La réforme s'est diffusée par ça. Et les Anglais, parallèlement, toute la littérature de Broadside Ballad, parce que les chansons... Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il y a des chansons sur cette littérature ou pas du tout?
Non, il y a surtout de la poésie.
Il y a de la poésie, quand
même. Oui, voilà, roman...
Parce que la littérature de Cordel, effectivement, oui. c'est la réplication de ce courant-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir cet éclairage historique, parce qu'il y a des similarités très, très importantes, y compris économiques et sociales. Quoi. Voilà.
Christian.
Oui, non, je reviens de Marseille 2013 où j'ai assisté à l'expression de 7 traducteurs d'Égyptiens, de Tunisiens, de Croates. Mais les traductions sont surtout sur des nouvelles. Et de la même façon, les Français sont plutôt habitués à lire des romans que des nouvelles. Et donc il y a peu de publications de ces étrangers en France, enfin, même traduit, parce que les nouvelles, ce n'est pas notre style de lecture. Mais il n'empêche que ces traductions existent. Et ce qui était assez remarquable, c'est que c'était l'expression de la créativité dans ces territoires. À part les films en Égypte, l'industrie cinématographique en Égypte, il y en a très peu, il n'y en a pas en Tunisie. La seule expression créative auxquelles les gens peuvent avoir accès ou le diffusion, c'est l'écrit. Et donc je posais la question, est-ce qu'en Amérique latine, c'est aussi l'écrit qui permet la diffusion de l'expression créative, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres types d'expressions créatives comme le cinéma, enfin l'industrie proprement dit, hein, ou d'autres formes que... Enfin, le théâtre, etc. Tandis que dans le bassin méditerranéen, c'est plus limité, quoi. C'est vraiment l'écrit.
Oui, alors merci pour votre question, c'est vraiment intéressant. Alors je vais surtout parler de l'Argentine parce que c'est le pays que je connais le mieux en Amérique latine. Bon, en Argentine, c'est assez exceptionnel, je pense, par rapport justement au reste des pays de la région, mais il y a une industrie du cinéma qui est assez importante avec des productions locales très régulières. Enfin, justement, bon, on parlait d'Arteba tout à l'heure pour l'art, mais la semaine du cinéma, c'est quelque chose d'incontournable en Argentine. Et depuis justement la crise de 2001, il y a un renouveau du théâtre. Bon, c'est pas l'objet ici, mais justement qui fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire il y a un travail sur la localisation du théâtre dans la ville de Buenos Aires, la volonté de produire des petites salles alternatives qui sortent justement des très grandes salles avec des titres assez commerciaux, mais ceci dit de bonne qualité. Il y a une tradition théâtrale assez importante à Buenos Aires, mais il y a un mouvement assez effervescent justement qui propose de relire ce mouvement théâtral et le mettre davantage à la portée de la population, en fait, de le démocratiser. Ceci dit, la question de la démocratisation du théâtre, il y a également toute une réflexion qui se développe là-dessus au Brésil, mais je pense que c'est surtout le Brésil urbain, c'est-à-dire le Brésil de São Paulo, Rio et un peu le nord-est, Recife et Fortaleza, mais surtout le Brésil urbain.
Il n'y a pas d'autres questions ?
Oui, c'est une bonne question. Alors en fait, justement, comme je disais au début, les couvertures sont réalisées à l'aide de pochoirs et un certain nombre de plasticiens ont mis la main à la pâte en fait en 2001 pour proposer des designs assez originaux pour les couvertures de ces ouvrages. Et de fait, la maison d'édition, donc j'ai pas insisté là-dessus parce que c'était un peu compliqué peut-être de tout comprendre en même temps, mais la maison d'édition est dérivée d'un projet plus large qui s'appelle Belleza y Felicidad, donc c'est-à-dire beauté et bonheur, et un projet de démocratisation justement de l'art qui a été mené notamment par Fernanda Laguna, qui est une des artistes contemporaines les plus connues en Argentine. Donc c'est un mouvement qui a pris la suite justement de la crise de 2001 et qui a eu pour objectif de mettre l'art à la portée de tous. Donc la base de Belleza y Felicidad, c'était un tout petit local dans un quartier assez central, et puis avec une participation des habitants du quartier qui venaient à tour de rôle occuper une permanence pour justement animer un peu cet art de quartier. Donc oui, il y a un lien très étroit avec l'avant-garde plasticienne aussi.
Merci. Alors, cette question nous permet, je crois, Jacqueline, une transition, c'est ça ?
Oui. Tout d'abord, je voulais remercier Élise en votre nom, parce que je pense que voilà, elle a animé parfaitement bien cette table ronde ce matin, tous les intervenants. Et puis, re-signaler, je l'ai déjà dit hier, mais que tu avais un pied aussi dans le Poitou-Charentes et en étant aussi sur Paris. Et donc, compte tenu de tes compétences, ne pas hésiter à te solliciter. Voilà, je voulais simplement signaler ça. Et puis la transition, ben, c'est pas moi qui vais la faire, c'est Fanny, parce que ça fait partie des petites surprises qu'on avait dit. Mais justement, peut-être tu peux rappeler ce que tu fais depuis hier et puis nous inviter, je crois, à aller voir un résultat de la coproduction collective. Mais tu peux.
Changer d'espace, et là je vais vous expliquer ce que j'ai le petit chantier que j'ai entamé depuis hier ici, si vous voulez bien venir avec moi là-bas.
Merci. Un petit rappel d'organisation, on recommence à 14h et le déjeuner a lieu comme hier à la cafétéria.